Certaines questions me taraudent depuis le début de la crise du Covid-19. Faut-il communiquer en plein confinement? Et si oui, comment? Comment adapter son marketing? Quelles approches commerciales faut-il adopter? Pour répondre à ces questions, j'avais envie d'interroger différentes personnalités afin de recueillir des sons de cloche différentes. L'idée est de vous apporter des conseils et des points de vue sur les manières d'agir actuellement et sur comment bien préparer la sortie de crise. Personne n'a bien évidemment de recette miracle. L'idée est simplement d'être sincère et de livrer ses croyances et ses propres pratiques. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité faire un podcast collaboratif. La valeur est dans la pluralité des opinions. Vous allez donc entendre, par ordre d'apparition, Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, parce qu'il coach au quotidien des entrepreneurs. Olivier Méril, CEO de l'agence MV Group, parce qu'il accompagne avec ses 250 collaborateurs des PME et des ETI au quotidien. Alexis Minkela, créateur de Tribu Indé, porte-voix du monde des freelances en France, il donne son avis sur ce que devrait faire un freelance pour bien passer la crise. Grégoire Gambato, CEO de l'agence Germinal, je trouvais intéressant d'avoir son point de vue de spécialiste du growth hacking. Bruno Friedlanski, consultant, formateur, auteur et grand spécialiste de LinkedIn. Il nous donnera son éclairage sur la manière de bien utiliser ce réseau social durant la crise. Enfin, Frédéric Canvet, product manager, auteur et blogueur, nous communique ses tips pour bien communiquer durant cette crise du Covid-19. Je vous laisse avec eux, écoutez-les, c'est intéressant. Et désolé pour la qualité du son qui est parfois très inégale, mais les conditions d'enregistrement étaient un peu particulières comme vous pouvez vous en douter. Allez, je vous laisse avec mes invités, écoutez-les. Bonjour Alexandre.
Salut.
Comment vas-tu?
Ben écoute, ça va bien, je suis confiné comme tout le monde.
Ouais, alors effectivement, pas vraiment le choix. Alors, nous sommes le 1er avril, on voit fort heureusement très peu de blagues aujourd'hui circuler sur le net et les médias sociaux. Alors si on devait faire l'analogie avec la communication et le monde de l'entreprise, bon, toi qui est au cœur hein, finalement du monde des TPE, des entrepreneurs, quelle serait ta position là? Faut-il aujourd'hui communiquer ou au contraire faire le dos rond?
Écoute, c'est clair qu'on s'est posé la question. Live Mentor a accompagné 7000 entrepreneurs depuis 3 ans et demi. On les a accompagnés dans des formations en ligne qui sont basées sur du coaching. Et donc, dans la nature même du coaching, tu écoutes les problématiques, les difficultés de ton interlocuteur. Et c'est clair que depuis le début de la crise coronavirus et depuis le début du confinement, les difficultés des entrepreneurs sont beaucoup plus fortes qu'avant. Avant de te répondre très directement sur la question, je pense qu'il faut d'abord partir du contexte. On vit une crise qui va être longue d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue économique. Il est possible qu'il y ait à l'échelle globale, hein, je parle à l'échelle mondiale, des centaines de milliers de morts, peut-être des millions. Je l'espère pas, évidemment, mais c'est une possibilité. On parle d'un taux de chômage aux États-Unis qui pourrait atteindre les 20-30%. C'est juste énorme. Ça sera sûrement beaucoup moins en France parce qu'on a un État-providence beaucoup plus développé, que l'État je trouve, super bien réagi avec toutes les mesures de chômage partiel et toutes les aides aux entreprises, ce qui fait qu'on devrait normalement conserver un peu plus de vitalité. Néanmoins, les nouvelles sont quand même vraiment mauvaises. Ce qui est certain, c'est que la plupart d'entre nous sont très hésitants en ce moment à faire du marketing. On peut se sentir coupable de faire du marketing. C'est comme si profitait de toute l'attention que les gens ont sur Internet en ce moment, toute l'attention que les gens donnent à Internet. Tu sais que le temps moyen passé sur Internet a augmenté de 20, 30, 40% selon les pays depuis le début de la crise. Enfin, c'est juste colossal. Mais pourtant, c'est à mon sens, une vision incomplète que de se sentir coupable de communiquer en ce moment. Au contraire. Au contraire. Il va y avoir en fait plusieurs phases. Il y a une première phase dans laquelle on est encore, qui est toute l'attention des individus, elle est sur le coronavirus, elle est sur le Covid. Donc continuer de communiquer, oui, mais continuer de communiquer comme avant, c'est pas possible. C'est pas possible de garder les mêmes contenus, les mêmes messages, les mêmes valeurs. Il faut se rendre compte que la productivité des gens, elle est beaucoup plus faible qu'avant. Le niveau d'angoisse, il est beaucoup plus fort. Et donc, chaque entreprise a une responsabilité d'adapter sa communication avec le coronavirus. Que ce soit d'offrir certaines choses, que ce soit de donner du contenu qui a du sens. On peut tous, d'une manière ou d'une autre, ramener notre activité et ramener notre communication dans une certaine zone de proximité avec cette maladie et ce confinement. Donc, il faut adapter ce qu'on fait. Je pense à toutes, évidemment, toutes les sociétés, les entrepreneurs qui sont dans le domaine de la nutrition, qui sont dans le domaine du fitness, qui sont dans le domaine de la santé, et ceux qui réussissent à s'en sortir en ce moment, c'est ceux qui disent, bah oui, il se passe quelque chose en ce moment de très fort. Voilà comment mon activité peut vous aider dans cette période. Voilà les contenus que je peux créer pour vous aider à passer ce cap. Et ça va vraiment être une phase de peut-être 3 mois où toute l'attention, elle va être sur le coronavirus. Et je pense qu'il va y avoir une deuxième phase.
Alors je me permets de te couper, oui. Mais malgré tout, sur cette première phase, n'y a-t-il pas un risque d'être un peu dans le racolage ?
Le point, il est très simple. C'est une question vraiment d'honnêteté. Si tu transformes ton activité, ton service et que tu commences à raconter n'importe quoi face au coronavirus, là, c'est de la mauvaise communication, c'est du mauvais marketing. Le cas extrême de ça, c'est deux entrepreneurs, entre guillemets, américains, et j'aimais bien entre guillemets, qui le premier jour de la crise sont allés dévaliser tous les Walmart, tous les supermarchés pour acheter du gel hydroalcoolique pour ensuite le mettre en vente sur Amazon. Ça, c'est plus que du racolage même. C'est de la misère humaine, c'est scandaleux de faire ça et je suis très content qu'Amazon les ait bannis. Par contre, prendre ton activité dans laquelle tu crois, dans laquelle tu as une passion et s'interroger sur sa compatibilité avec le virus et la redéfinition en fait de ta proposition de valeur vis-à-vis du confinement, ça a beaucoup de sens.
Oui, alors il faut quand même en repasser par une redéfinition de la proposition de valeur.
Exactement.
Et on peut faire du commercial tout de même ?
Bien sûr, il faut évidemment en faire. Le pire qu'on puisse faire dans une période de crise, c'est que plus personne n'échange avec qui que ce soit. Si tu mets ton activité en pause, bah tu fais mal aux autres activités autour de toi.
Ok, alors je te laisse pour le coup poursuivre sur la deuxième phase.
La deuxième phase, ça va sûrement être une phase où le marketing et la communication vont non pas être tournés vers le coronavirus, mais sur l'activité en ligne. C'est-à-dire que on fait cette transition, en fait. On va sûrement avoir, suite à cet épisode du Covid, une partie beaucoup plus forte de l'économie qui va se dérouler sur Internet. On va pas revenir à ce qu'on a connu avant. C'est pas possible. Et donc, c'est là que la stratégie, et pas juste la stratégie marketing, va devoir s'adapter à cette nouvelle donne. Comment est-ce que on communique sur Internet? Comment est-ce qu'on fait des Facebook Live? Comment on fait des Instagram Live? Comment est-ce qu'on crée une interaction à distance? Puisque c'est ça, le marketing, c'est créer une interaction. C'est créer une relation. Il va pas y avoir un retour au même nombre d'événements locaux à la fin du confinement. Ça va pas être un retour à ce qu'on a connu avant du jour au lendemain. C'est impossible, absolument impossible. Donc tout le monde doit s'interroger sur l'utilisation d'outils comme les webinars, comme les YouTube Live, comme les Facebook Live, et alors la pertinence de ces outils. sur son activité. La deuxième phase va sûrement se transformer en une troisième phase, j'espère pas, mais il est malheureusement possible qu'on y arrive. Cette troisième phase, c'est à quoi ressemble ma communication dans un contexte de crise ? À quoi ressemble ma communication si on est dans une crise économique qui dure pendant 2 ans, pendant 3 ans ? C'est pas le genre de moment d'avoir des messages dans sa communication comme « Nous vivons une époque formidable, il n'a jamais été aussi facile d'acheter une voiture ou d'acheter une maison. » Tu peux prendre n'importe quel produit, activité ou service, mais il va falloir quand même profondément s'adapter si on rentre dans une crise économique longue.
Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu leur dis là actuellement à tes clients ? Qu'est-ce que tu leur conseilles, notamment pour faire face à la crise et surtout pour bien préparer la sortie de crise ?
Nous, on conseille aux entrepreneurs qu'on accompagne de faire ce qu'on a toujours dit, et indépendamment de la crise, créer une audience, créer du contenu, créer une communauté, créer vraiment ce micro-groupe de personnes, peut-être quelques dizaines au début, quelques centaines, quelques milliers ensuite, qui sont abonnés à une newsletter, qui sont abonnés à une chaîne YouTube, qui suivent un blog de manière régulière et qui vont porter l'entrepreneur durant cette période difficile, qui vont le suivre dans ses aventures et avec un niveau de proximité qui est très fort. Plus que n'importe quand, il est important d'avoir une communauté aujourd'hui.
Donc, profiter de la crise pour communiquer encore plus, pour créer encore plus de contenu, créer un blog si on n'en a pas, ou l'alimenter si on en a déjà un.
C'est ça, absolument.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait de nos campagnes publicitaires, notamment les Facebook Ads, les Google Ads ?
On regarde les résultats, déjà. Évidemment, si on parle de marketing payant, on regarde les résultats. Est-ce que c'est toujours rentable ou pas ? Et en ce moment, il y a des impacts très 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 différents selon les activités. Si tu prends toutes les activités en présentiel, il n'y a plus rien. Plus personne ne tape Docteur Paris. Plus personne ne tape Formation Développement Web Lyon. Plus personne ne tape Salon Événement Maquillage Marseille. Tu vois, ça n'existe plus, ça. Donc les campagnes marketing sur ces activités-là, aujourd'hui, c'est un gouffre financier, donc faut les arrêter tout de suite. Par contre, t'as jamais eu autant de recherches sur Internet concernant l'e-commerce, concernant les formations en ligne, concernant le maquillage en ligne, concernant tous les sujets, la téléconsultation également des docteurs. Doctolib a annoncé que leur nombre de téléconsultations avait été multiplié par 100. C'est énorme quand même. Par 100.
Quelques conseils de lecture là, puisqu'on a un petit peu plus de temps que la normale.
Écoute, moi j'ai sorti mon premier livre.
Voilà, félicitations.
Je l'ai sorti en plein confinement, donc c'est pas terrible parce qu'il y a 9000 exemplaires qui sont dans les Fnac, inaccessibles. Mais non, écoute, moi mon bouquin, c'est un bouquin sur l'entrepreneuriat qui s'appelle La méthode Live Mentor. C'est un bouquin qui mélange entrepreneuriat et dev perso, qu'on peut trouver sur la Fnac ou sur Amazon. C'est 12 étapes pour accompagner un entrepreneur à lancer son projet et le développer. Et c'est un livre un peu singulier dans sa rédaction, puisque c'est une conversation avec un coach durant les 12 étapes, avec des exemples très travaillés. Donc c'est un entre-deux entre le livre pratique rempli de conseils business et une forme de roman, puisqu'il y a pas mal d'histoires. Et sinon, dans les autres livres que je trouve toujours super valide, Le mythe de l'entrepreneur revisité de Michael Gerber est un super bouquin. Moi, je recommande. Je recommande également énormément le livre de Rand Fishkin, R-A-N-D-F-I-S-H-K-I-N, qui s'appelle Lost and Founder en anglais. Je ne sais pas s'ils ont fait une traduction française. C'est un super bouquin d'un entrepreneur qui raconte tout son parcours et notamment des moments très difficiles et il est passé en dépression. Voilà les livres que je peux recommander.
Ok, super. Merci beaucoup.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Salut Olivier.
Bonjour Stéphane.
Comment vas-tu ?
Eh bien écoute, pas trop mal. Je puis plutôt bien installé pour quelqu'un de confiné. On n'a pas trop à se plaindre dans le contexte.
Bon, bah c'est cool. Alors toi qui es à la tête d'une très belle agence conseil en stratégie digitale, quels sont les tarocos là actuellement? Faut-il communiquer, faire du marketing, faire du commercial, ou au contraire, faut-il faire preuve de sobriété, faire de l'euro?
Alors oui, il faut en faire en fait, si ce n'est que maintenant, il faut les faire de façon différente. En fait, hein, ça... La période, elle nécessite justement de tout remettre en cause et de s'adapter. Moi, le premier élément, je pense, avant même de communiquer, c'est d'abord de travailler l'interne. C'est s'assurer d'abord des fondamentaux de l'entreprise. Et les fondamentaux de l'entreprise, c'est d'abord avant tout l'équipe. Donc, c'est que de notre côté, c'est le premier axe qu'on a travaillé. Bien évidemment, il y avait la sécurité des collaborateurs, mais s'assurer qu'ils puissent être en ordre de marche et de bien fonctionner. Donc, on a mis en place beaucoup d'actions de communication interne. On travaille sur notamment le home office. On a des outils qui nous permettent de travailler très facilement home office. Donc, on a 100% de nos fonctionnements et ça n'altère en rien du coup le niveau de prestation. Et puis, une fois qu'on a ces éléments-là, alors je mets de côté les actions que le dirigeant a à faire d'un point de vue... assurer la pérennité de l'entreprise, la trésorerie, ce genre de choses. Après, en tout cas, nous, le parti qu'on a pris, c'était de très vite travailler sur la projection vers le futur pour nous et pour nos clients, et donc en mettant en place un certain nombre de choses. Donc, alors oui, il faut communiquer. Par contre, on voit bien au moment de la bascule, on avait nous-mêmes quelques emailing de marketing automation ou des prises de parole. Finalement, dans le nouveau contexte, était devenu un peu décalé. Et donc, ça, faut d'abord vite identifier ces éléments-là pour les réajuster, parce que finalement, on veut prendre la parole et on va se retrouver un peu pénalisé par les anciennes actions. Et puis, en fait, après...
Oui, alors, je me permets de te couper, parce que c'est intéressant. Donc, bien évidemment, hein, tout ce qui est automation en termes de marketing, mais également, j'imagine, je suppose, tout ce qui est Google Ads, Facebook Ads, enfin, toutes les campagnes qui tournent actuellement.
Bah, oui, effectivement, sur à peu près tout. Tu vois, nous, typiquement, on a en permanence une grosse campagne de marque employeur, sur lequel tous les collabs interviennent, ils ont la banane, on propose une aventure exceptionnelle. Bon, bah là, rapidement, on a même anticipé avant même, dès qu'il y a eu l'événement, on s'est dit, cette campagne-là, il faut juste qu'on la mette en pause. Là, ça va être limite provocateur pour les gens et ça ne correspond pas à la vie qu'on a. On est mieux lotis que d'autres, on n'est pas malade, on est en bonne santé, mais pour autant... l'environnement business, l'environnement économique, il est à plat, et donc on ne peut pas les fanfaronner sur les réseaux en expliquant que c'est super et qu'on propose une aventure de dingue. Hein. Donc voilà, ça c'est typiquement pour moi l'exemple. Après, paradoxalement, par exemple, on a une campagne en marketing automation qui tournait sur un livre blanc et qui était très orientée business, et même en interne, on m'a fait la remarque, et donc moi j'étais le premier à dire « bah ouais, effectivement, faut qu'on la revoie ». Et cette campagne, elle a jamais tourné autant. Voilà. Et donc, mon équipe m'a dit, on ne voit pas l'intérêt de la changer. Là, ça peut être un peu bizarre, mais en tout cas, elle cartonne à bloc. On n'a jamais eu autant de leads générés. Donc, voilà. Il n'y a pas de vérité, hein, de toute manière, sur la com. Nous, on fait en sorte de l'aligner avec ce qu'on pense être bien et faire en sorte, justement, d'être totalement aligné, d'être sincère dans nos actions. Et puis, on s'est vite après mis dans la peau en fait de nos interlocuteurs, des directeurs marketing comme des dirigeants de boîte, en se disant concrètement c'est quoi aujourd'hui leur problème, leur boîte peut être à l'arrêt ou elle peut à l'inverse tourner du feu de Dieu, parce qu'on a aussi des clients qui tournent du feu de Dieu, et donc quels sont les besoins qu'on peut leur apporter. Là, en gros, les grandes lignes du raisonnement qui nous a animés.
Ok, donc ça c'est intéressant, tu parles de sincérité, mais quid de la data finalement? Est-ce qu'on doit aujourd'hui s'appuyer sur la data, sur la donnée? Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, totalement. Bah, ça nous permet d'avoir justement des... On n'est plus sur l'intuition en fait, on est sur la réalité des faits. Et donc ça c'est le vrai comportement du consommateur. Et voilà, alors on mixe toujours entre les chiffres froidement sortis et puis l'interprétation à en faire. Et c'est cet équilibre-là qui du coup, permet d'avoir une, je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais en tout cas une bonne solution qui correspond à la problématique de l'entreprise.
Ouais, je crois que de toutes les manières, il n'y a pas de meilleure solution. Alors, comment vous préparez la sortie de crise ? Alors, je suis d'accord, hein, c'est un peu tôt pour parler de sortie de crise. Malgré tout, il faut y penser. Alors, j'ai cru comprendre que vous avez lancé plusieurs initiatives. Tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, bien sûr. Alors, nous, on s'est assez vite en fait focalisé sur tous les sujets ultra prioritaires, ce que j'évoquais, les collaborateurs. La partie financière de l'entreprise, en gros, ça nous a pris à peu près 15 jours. Alors, on avait anticipé beaucoup et on était plutôt bien en ordre de marche. Et pour se projeter vraiment sur le futur, moi, je suis à la cinquième crise. Alors, j'avais pas les mêmes fonctions avant, mais la précédente, j'étais dans un CODIR. Et ce qui a manqué, en tout cas, moi, dans l'analyse que j'en ai fait, c'est que mon ancien groupe s'était embourbé, en fait, dans cette situation-là, sans donner de perspective du tout aux collaborateurs et au marché. Donc il y a déjà un côté pour moi anxiogène de la période, hein, pour tout le monde. Donc là en plus elle est sanitaire plus économique, et cerise sur le gâteau, on est tous confinés, donc avec des collaborateurs qui peuvent être totalement isolés. Et donc nous la stratégie là du CODIR, ça a été vraiment de se concentrer d'abord sur les points urgents et pour optimiser au maximum sur le futur. Et donc on en est venu rapidement à se dire finalement, les boîtes vont être à peu près dans le même schéma, donc elles vont mettre plus ou moins de temps à gérer les urgences, mais après, ils vont aussi avoir des collaborateurs qui vont avoir plus de temps. Et on voit bien dans nos métiers, il y a toujours beaucoup d'actions à faire, et ces actions, elles sont tout le temps repoussées par des nouvelles demandes urgentes, et donc tout le monde a une liste de to-do qui se rallonge au fur et à mesure avec des choses qui seraient bien de faire et qui ne sont pas faites. Et donc, on s'est dit, lançons un défi, on va être confinés au moins une bonne trentaine de jours. Et donc, on lance un défi qu'on appelle défi 30 jours avec un conseil par jour, avec des axes. Hein, et donc, on les détaille précisément, justement, pour que chacun puisse trouver un peu répondre à ses différents besoins en se posant sur des choses. Donc, le premier, ça a été adapter sa communication, par exemple, hein, puisque c'est ce que j'évoquais en préambule, on est dans un environnement qui est différent, donc on ne peut plus communiquer de la même manière. Après, ça a été d'adapter sa stratégie web marketing, donc faut-il couper ses campagnes, pas couper ses campagnes, c'est pareil, cas par cas. On a des réseaux complets qu'on fermait, là on a carrément coupé les campagnes, il n'y avait pas à débattre. Pour d'autres, ils sont en e-commerce, et donc là, ça n'a jamais tourné quasi autant, et puis pour d'autres, ils sont sur du lead. Et sur du lead, concrètement, il y a peut-être moins de volume, hein, mais il faut pas couper la campagne, puisque s'il y a moins de volume de recherche, il y a aussi moins de budget. Et tant que le coût lead est tout le temps rentable, hein, finalement, faut faire. Et ça a été, par exemple, on a un client qui avait en moyenne 50 leads par jour, et on s'est chuté à 15. Donc spontanément, on lui a dit on arrête tout. Donc, on lui a expliqué que 15 leads qui coûtaient le même prix que 50, c'était mieux pour lui. Ça faisait quand même mieux tourner la boutique que zéro lead. Bon, assez rapidement, il a pu le comprendre, et finalement, la campagne tourne, si ce n'est qu'elle est sur un budget qui est moindre, tout simplement parce qu'il y a moins de volume de recherche, et c'est toute la force aussi d'AdWords, c'est que ça épouse la volumétrie. Donc, quand le volume va repartir, sa campagne repartira de la même manière. Et donc, selon en fait les différents axes, on a profité, par exemple, de mémoire, le quatrième conseil, c'était de repenser ses personas. Typiquement, pareil, on est dans des jobs où les personnages ont pu être faits il y a 2 ans. Tout le monde est dans l'urgence et finalement, on peut se retrouver à faire des campagnes qui sont un peu à côté de la plaque. Juste prendre un peu de temps pour les relire, se reposer dessus, bien revoir si ça correspond, s'il n'y a pas des évolutions, et est-ce qu'on n'a pas des nouveaux personnages qui vont intervenir. Est-ce qu'ils ne vont pas avoir dans cet environnement-là justement des visions de pensée un peu différentes? Par exemple, l'approche héroïste, quand la conjoncture elle est favorable, les gens la regardent peut-être un peu moins. On est moins en train d'essayer de faire des économies. Quand la boîte elle doit faire des économies, mécaniquement, les interlocuteurs vont être plus sur une approche plus héroïste, plus rentable. Et donc, c'est aussi ce genre de choses qu'il faut savoir adapter. Voilà, en gros, et donc on déroule ça jusqu'à fin avril. Là. Chacun va pouvoir plonger.
Ok, et on retrouve ces conseils où ?
Eh bien, on les trouve sur les réseaux sociaux et puis sur le blog MV Group. Donc, tous les jours, on en déroule un.
Ok, alors c'est du contenu valeur ajoutée, c'est du contenu pédagogique. Alors est-ce que c'est justement le bon moment d'accélérer sur ce type de contenu et de prise de parole ?
Tu as raison, sur un certain nombre de sujets, par exemple les refontes de sites, aujourd'hui beaucoup d'entreprises en profitent. Hein. Ils savent, hein, par exemple, on a des clients qui ont validé des devis qui étaient en attente, ça les a fait accélérer. Justement, en fait, il y a deux types de cas d'entreprise. Il y a l'entreprise qui, globalement, pouvait être un peu bancale avant. Elle, globalement, elle se rétracte à fond et elle aura du mal à communiquer puisqu'elle était déjà un peu en difficulté. Et puis, il y a celle qui, finalement, sait qu'elle sera là. Elle est suffisamment solide et elle sera là demain. Et donc, elle sait que, de toute manière, il va falloir préparer le futur. Et pour préparer le futur, c'est déjà de se poser sur les fondamentaux. Et les refontes de sites, en l'occurrence, ça fait partie des premières briques à bien travailler comme la partie SEO. Donc, moi, je suis convaincu, on est convaincu chez MV Group que à la sortie, il y aura une prime. En fait, ça redistribue les cartes hein, à chaque fois ce genre d'événement et il y a une prime tout le temps à celui qui va le plus vite. Hein. Et là, c'est pas la course à la taille, hein, c'est l'agilité, la rapidité qui va permettre justement d'aller capter des nouveaux clients. Et donc, mieux profiter de toute manière de chaque mauvais moment, faut les transformer en meilleur possible et donc vaut mieux prendre le temps avec ses équipes pour bien structurer les choses et faire un petit arrêt sur image pour solidifier les acquis et construire le futur.
Bien, super, merci beaucoup Olivier, à bientôt.
Ça marche, merci beaucoup Stéphane, à bientôt.
Salut Alexis.
Salut Stéphane.
Comment vas-tu ?
Très bien, et toi ?
Écoute, pas trop mal pour un confinement, je dois avouer avoir souffert les premiers jours, et puis après quelques temps, j'ai fort heureusement pris mes marques. Et du coup, j'utilise le temps complémentaire que j'ai pour lancer quelques projets, des projets qui me tenaient à cœur, et puis des projets qui ont émergé dû à la crise. Et typiquement, ce podcast en fait partie, et j'espère qu'il sera utile pour mes cibles. Alors, j'ai cru comprendre que toi, tu étais en pleine crise du Covid-19 en Asie. Alors, raconte-nous.
Exactement. C'était prévu de rester 3-4 mois en Asie pour ce début d'année. Et au bout d'un mois et demi, j'ai dû un petit peu rentrer un peu au dernier moment pendant le confinement. Donc, je t'avoue que le retour était pas si évident que ça. Quand t'as commencé à avoir une bonne organisation, des bonnes routines, et puis l'Asie est quand même assez sympa. Donc le retour a fait un petit peu mal et difficile de m'y remettre aussi. Je pense qu'on en parlera un petit peu, mais écoute, là ça va, je commence à reprendre un rythme normal, on va dire, en tout cas le plus normal possible de travail.
Alors toi qui es l'un des principaux porte-voix du monde des freelances en France, c'est sur cette thématique que j'ai envie de t'interroger. Alors en tant que freelance, devons-nous communiquer, pas communiquer, faire du marketing, ne pas faire de marketing, faire du commercial, ne pas faire de commercial ? Quel est ton avis ?
C'est une question qui n'est pas évidente et sur lesquelles il n'y a pas de réponse vraiment toute faite à appliquer. Avant de te répondre très très précisément sur cette partie-là, je pense que c'est intéressant de faire un pas de côté et de regarder un peu plus profondément ce qui se passe aujourd'hui globalement. En fait, je trouve que la difficulté, et c'est pour ça que tout le monde se pose cette question-là de qu'est-ce qu'on fait, et notamment en freelance, qu'est-ce qu'on fait de notre temps aujourd'hui et comment est-ce que on l'utilise de la meilleure des manières pour servir sa propre activité. Et tu vois, typiquement, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me remettre dans un rythme de travail, à essayer de me reconcentrer dans ma bulle, etc. Et je lisais récemment une newsletter de Mark Manson. Mark Manson, pour les personnes et les auditeurs et auditrices qui le connaissent pas, c'est l'auteur de notamment d'un des gros bouquins qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Donc c'est une couverture orange bien fluo, qui d'ailleurs une lecture que je conseille encore plus en ces temps de crise qui prend un peu le contre-pied de toute la rhétorique qu'on entend autour du développement personnel sur le fait que la vie est magnifique, que en croyant fort à ses rêves tout va pouvoir se réaliser. Et je trouve que en cette période-là, c'est plus que d'actualité de lire ce bouquin-là. Mais bref, pour revenir sur Mark Manson et sa newsletter, il expliquait que lui aussi avait eu beaucoup de mal à se reconcentrer sur son activité et surtout à mettre en place et à retravailler ses objectifs moyen terme, c'est-à-dire sur ses objectifs de l'année. Et moi, je me suis retrouvé dans la même posture parce que j'ai des objectifs que je me fixe à l'année, mais je travaille surtout sur des plans de 90 jours. Donc, à chaque trimestre, je me fixe des objectifs, des résultats à atteindre, en tout cas une direction à me fixer. Et bien sûr, là, on est début avril et donc j'ai fait le bilan de ce premier trimestre et j'ai surtout dû préparer le prochain trimestre. Et avec le confinement et cette crise-là, il y a beaucoup, beaucoup de projets, d'idées que j'avais en tête qui sont remises en question. Et donc, j'ai dû aussi me réadapter, remettre des priorités sur d'autres projets. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été simple à faire. Et dans sa newsletter, il pose une question qui est, je trouve, vraiment intéressante, qui est de se dire, si le confinement devait durer 8-9 mois, bien sûr, il y a plein de projets qu'on ne pourrait pas faire. Et en gros, il nous fait nous questionner sur qu'est-ce qu'on ferait de ce temps-là. Comment est-ce qu'on utiliserait ce temps sur les 8-9 prochains mois et sur quel sujet on a envie de travailler. Et en fait, je me suis basé sur cette question-là pour notamment préparer les 90 prochains jours de l'année. Et je trouve que répondre à cette question-là, c'est déjà un début de réponse à ta première question qui était « qu'est-ce qu'on fait quand on est freelance ?» Globalement, aujourd'hui, je pense que faire de la prospection, c'est pas la meilleure stratégie et c'est pas celle qui fonctionnera le mieux et sur lequel on va pouvoir capitaliser. Pourquoi ? Parce que si je prends mon cas sur le content marketing et le copywriting, bien sûr que les entreprises ont encore besoin de créer du contenu et bien sûr que demain, post-confinement, elles auront encore besoin de faire l'acquisition, de faire la rétention client, de bien gérer des séquences email, de faire des onboarding corrects, etc. Mais aujourd'hui, je pense pas que ce soit la priorité des entreprises. On le voit dans la manière dont elles se réorganisent, on le voit avec les sujets de télétravail qui, en fait, pour beaucoup d'entreprises, c'est une redécouverte et c'est un chamboulement énorme dans le fonctionnement des équipes. Et donc, aujourd'hui, elles se reconcentrent de plus en plus sur leur cœur de business, leur cœur d'activité et surtout sur leurs salariés et les collaborateurs et beaucoup moins sur des prestataires qui sont externes à l'entreprise. Donc, la partie prospection, moi, je la conseille pas aujourd'hui. En revanche, je trouve que c'est un excellent moment pour retravailler certaines briques de son activité de freelance. Et ces briques-là, qu'on met un peu souvent de côté, d'autant plus quand on a une activité qui tourne, et du coup, on se pose moins de questions sur ces sujets qui sont retravailler potentiellement son offre, retravailler son positionnement, travailler un petit peu plus en profondeur sur tout ce qu'on a pu faire, sur des cas clients. Et ça, tu vois, moi, je suis pas vraiment de l'école de, avant de te lancer, de réfléchir pendant 6 mois à ton pourquoi, à ta vision, à ton ikigai, ce genre de choses. Je trouve ça très intéressant de le faire en amont, mais de pas y passer trop de temps. Et du coup, une fois qu'on est un peu dans dans l'activité quotidienne, on se pose moins ces questions-là d'offre de positionnement. Et je trouve que là, c'est un bon moment, un peu plus calme pour un grand nombre de freelances, pour justement se dire, OK, ça fait X mois, X années que je travaille sur tel et tel sujet. Est-ce que ça me plaît toujours? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Comment est-ce que je pourrais aussi transformer mon discours marketing? Est-ce que j'ai toujours envie de travailler avec les mêmes clients sur les mêmes sujets? Et sinon, comment est-ce que je peux réussir à rajouter une nouvelle corde à mon arc, un nouveau positionnement? Ça, c'est des sujets de fond qu'on traite pas souvent et je trouve que c'est une bonne manière de le faire. L'autre manière que je trouve intéressante d'utiliser son temps, c'est de lancer des projets personnels. Pourquoi ? Parce que en freelance, on a un avantage qui est pas négligeable par rapport, par exemple, à des salariés, c'est qu'on est libre d'organiser notre temps comme on le veut. Je dis pas qu'on gagne plus de liberté, mais en tout cas, on peut réorienter notre temps et organiser nos semaines plus ou moins comme on le veut. Ce qui fait qu'on a aussi plus de temps potentiellement pour se consacrer plus d'énergie à se consacrer à des projets personnels. Ces projets personnels-là vont faire effet de levier sur son activité de freelance. Si moi, je prends mon exemple concret, globalement, le podcast que j'ai lancé Tribu Indé s'adresse à d'autres freelances, donc pas forcément à mes clients, mais c'est un effet de levier incomparable pour aller montrer à mes clients ce que je suis capable de faire, la manière dont j'engage une communauté, la manière dont je traite des sujets et la manière dont je conceptualise des nouvelles idées. Et je trouve que c'est un beau moment aussi pour travailler sur des sujets de fond. Et donc, j'en reviens à la question de Mark Manson des 8-9 mois. Sur quel projet de fond plutôt personnel on a envie de travailler et qui va pouvoir potentiellement faire effet de levier auprès de notre cible en tant que freelance. Et je trouve que là, c'est un beau moment pour le faire. Et ensuite, sur la partie, est-ce qu'il faut communiquer, je dirais que c'est un peu propre à chacun. Moi, j'ai un point de vue où je me suis un peu positionné, tu vois, on a eu tous les deux eu un petit peu de mal à s'y remettre pendant au démarrage du confinement. Et à ce moment-là, moi, je voyais beaucoup de contenus de personnes qui disaient que c'était une énorme opportunité, que cette crise-là était une opportunité de prendre de l'avance, de produire beaucoup plus parce qu'on avait aussi plus de temps. Et je trouve que effectivement, c'est bien d'avoir ce temps-là pour produire, mais je trouve que c'est un comportement parfois un peu égoïste de se dire, ok, globalement, ça veut dire quoi ? C'est on se met dans notre bulle, on pense à rien d'autre autour et on prend pas en compte les événements externes et puis on se concentre et on ship du contenu et on fait des choses et on communique sur son activité, etc. Moi, je pense que c'est pas la bonne stratégie parce que c'est oublier, en fait, ce qui se passe, la réalité économique et la réalité de tous les freelances et de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, sur la partie sur communiquer, je pense que moi, typiquement, si je prends mon exemple, j'ai pas arrêté de créer du contenu, j'ai pas arrêté le podcast, j'ai pas arrêté de faire des projets, mais j'en fais pas plus pour autant et je surcommunique pas plus parce que je pense que personne a forcément trop envie d'entendre ce genre de discours parfois un peu moralisateur, de se dire ok, recrée-toi des routines incroyables, produis plus, organise-toi pour optimiser chaque minute de ton temps. Je trouve que ça prend pas en compte beaucoup de choses. Donc d'un côté, communiquer, oui, c'est bien, mais profitons aussi de ce moment pour être peut-être un peu plus discret sur certains sujets, retravailler des sujets de fond comme son offre, son positionnement, la manière dont on va aussi gérer l'après-crise et la manière dont on va communiquer avec de futurs clients, savoir quelles sont les hypothèses qu'on va pouvoir tester et puis travailler sur des projets plus personnels de long terme qu'on a souvent remis un petit peu à côté parce que on n'avait pas forcément le temps. Là, pour le coup, on a un peu plus de temps aujourd'hui.
Alors pour le coup, c'est un bon moment pour faire ou refaire ces personas, aller interviewer ces clients, ces prospects. Ils ont généralement plus de temps que par la normale. En plus, on est quand même content de discuter au téléphone ou de se faire de la visioconf. Donc, c'est ce que tu préconises là pour le coup, profiter de cette période pour refaire le point sur les besoins de nos personas, de nos cibles.
Exactement. J'avais typiquement, tu fais bien d'en parler, le dernier épisode que j'ai fait du podcast avec Pierre Guilbeault, justement, il est en train de lui comme moi, de retravailler notre positionnement marketing. Et donc, ce qu'on fait tous les deux, c'est que on discute avec notre cible et l'idée, c'est pas de vendre quoi que ce soit, c'est pas le moment, mais plus, c'est les équipes marketing ont aujourd'hui un peu plus de temps disponible. Et donc, du coup, on en profite pour faire des appels d'une demi-heure pour un petit peu comprendre comment s'organiser les équipes, quels sont les outils, quelles sont les problématiques du moment, et creuser un petit peu selon ces sujets, les problématiques qu'on va pouvoir adresser. Et ça nous permet de dresser des hypothèses qu'on va pouvoir aller valider ensuite et raffiner notre discours. Tu vois, c'est toujours un jeu de... on reteste un peu comme, tu sais, la mécanique en Ferrari, en Formule 1. Globalement, tu vois, selon les tours, etc., on change les pneus, on ajuste. Et c'est un petit peu ça, en fait, l'activité de freelance. Et ce moment-là est parfait pour le faire parce que les clients ont un peu plus de temps.
Ok, donc profiter de cette période pour remettre à plat, de réviser finalement ces fondamentaux, de construire ou de consolider les bases pour être en mesure d'accélérer une fois que nous serons en sortie de crise. Ok, alors tu avais parlé tout à l'heure de projet ou de side project. Tu bosses sur quoi là alors actuellement ?
Écoute, il y a toujours le projet de podcast Tribu Indé qui continue. J'avais hésité un petit peu à le mettre en pause pour le coup, pour être honnête, pendant cette crise-là, enfin pendant ce confinement plutôt. Et puis je me suis dit, je continue quoi. J'ai pas forcément de raison d'arrêter et ce que je construis là est un peu plus long-termiste. Et là du coup, je me suis vraiment recentré sur le gros projet de l'année, qui est l'écriture de mon premier livre de non-fiction avec une maison d'édition très cool. Et donc là globalement, tu vois, sur les 90 prochains jours, c'est mon focus principal et c'est le projet que j'ai envie d'avoir accompli. Là globalement, d'ici moins de 3 mois, la première V1 part chez l'éditeur. Donc heureusement, j'ai déjà commencé, mais du coup, tu vois, je mets aujourd'hui beaucoup de mon énergie notamment le matin où je travaille principalement là-dessus. Ouais.
Bon, pour le coup, le confinement tombe bien.
Exactement. Exactement. Moi, j'avais prévu dans tous les cas de réduire un peu l'allure avec mes clients. Donc, je vais dire que je suis pas le plus impacté, en tout cas aujourd'hui, par le confinement. Ouais.
Alors justement, tu parles d'impact. D'après toi, quel va être l'impact de cette crise sur le monde des freelances? Est-ce que ça va être finalement le secteur, le monde le plus touché par le confinement, par la crise?
Ouais, c'est une question qui est pas évidente de se dire dans quelle mesure on va être touché, nous, indépendants. Bien sûr, c'est sûr qu'on va être, à mon avis, impacté. Déjà, il y avait un sujet, on en discutait avec d'autres amis freelance, B2C, B2B. On pense, et c'est encore une fois une hypothèse, mais on pense que le B2C va repartir beaucoup plus vite que le B2B parce que en sortie de crise, on va continuer de reconsommer, on va retourner regarder des nouveaux produits, aller acheter, télécharger des applis, bref, on va reprendre un quotidien, je dirais, normal. Là où, à mon avis, je pense que du côté du B2B, étant donné que les entreprises elles-mêmes sont impactées, j'ai peur que ça remette un petit peu de temps et que du coup l'impact soit un peu plus diffus dans le temps et que ça dure un peu plus longtemps. Encore une fois, c'est des hypothèses. Moi, malheureusement, ça tombe un peu mal puisque je travaille exclusivement avec des entreprises B2B. Après, est-ce que ça va... Pour le coup, je pense que foncièrement, côté freelance, ça va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que les entreprises qui avaient besoin de marketing hier en auront toujours besoin demain. Des entreprises qui ont besoin de refaire l'UX de leur application auront toujours besoin de retravailler là-dessus. Donc, foncièrement, le business restera. En revanche, je pense que les entreprises, pour le coup, seront beaucoup plus exigeantes et feront beaucoup plus attention sur leur poste de dépense, forcément, et sur le ROI potentiel de chaque prestation et de chaque accompagnement et de chaque projet qui va être fait avec des freelances. Ce qui va obliger, du coup, côté freelance, à être beaucoup plus pointilleux, à avoir un discours, pour le coup, marketing, et ça, quel que soit son corps de métier, mais avoir un discours beaucoup plus marketing et business pour faire comprendre l'impact que peut avoir ton projet, ta mission, tes compétences, et qu'est-ce que ça peut changer dans le business de l'entreprise pour lesquelles tu vas travailler. Et ça, je trouve que c'est quelque chose où c'était encore acceptable aujourd'hui. Mais tu vois, par exemple, demain, quelqu'un qui est simplement, entre guillemets, rédacteur web et qui se présente comme juste « j'écris des articles », je pense que ça sera pas suffisant et qu'il va falloir ajouter une brique supplémentaire qui est « ok, quel est l'impact globalement de ce que je suis en train de faire et quel est l'impact de potentiel d'écrire un blog, de créer un blog, d'écrire des articles sur votre business à vous en tant que client ?» Et ça, pour le coup, il va falloir avoir ce discours-là un peu plus précis pour rassurer aussi les clients parce que, comme toujours, que tu fais appel à un freelance, il faut pas oublier que le client fait aussi un pari puisqu'il achète une prestation, il achète une réponse, une solution à son problème sans avoir vraiment vu déjà la solution. En tout cas, tu l'as déjà rassuré avec des use cases, etc., mais chaque client est unique. Ce qui fait que déjà, tu vois, il y avait ce côté où il y avait une petite prise de risque qui pouvait être minimisé par plein de biais psychologiques côté freelance, des références, des cas clients, un discours marketing rodé, etc. Mais tu vois, cette prise de risque-là, elle va être encore plus forte post-confinement et du coup post-crise parce que...
Ouais, c'est sûr que tout ce qui n'est pas perçu comme essentiel risque de passer à la trappe.
Exactement. Et donc, tu vois, même pour un... Et je trouve que l'exercice est intéressant, tu vois. Que tu sois développeur, que tu sois illustrateur, graphiste, copywriter, peu importe, du coup, je trouve que c'est le bon moment pour réfléchir aussi à... Au-delà de juste délivrer et d'être, tu vois, un exécutant sur mon client a tel besoin et donc je livre tel contenu, tel livrable, en gros, quel va être l'impact de ces livrables-là sur le business tout entier. Et je pense que la capacité que vont avoir les freelances à comprendre comment fonctionne un business, à se mettre à la place des équipes dirigeantes, des sponsors au sein de l'entreprise, avoir cette capacité-là et être capable de la recracher dans des propositions commerciales, dans des rendez-vous clients, je pense que demain, ça fera beaucoup plus la différence qu'aujourd'hui.
Allez, puisqu'on a un petit peu plus de temps que la normale, ça serait quoi tes deux, trois lectures que tu nous conseillerais?
Écoute, j'en ai quelques-unes là. Je me suis remis un petit peu plus à la fiction. Parce que du coup j'avais un peu un ras-le-bol business, donc je me suis remis un peu à la fiction et j'ai terminé deux bouquins. Le premier, qui est un classique que j'avais jamais lu, qui est une nouvelle qui s'appelle Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, et puis le deuxième, qui est un livre génial, qui s'appelle L'Odyssée de l'endurance de Shackleton. Et en gros, c'est le carnet de bord de Shackleton qui était à la tête de l'expédition la première expédition de l'Antarctique, pour traverser l'Antarctique de ouest en est. avec toutes les complications qu'il y a eu, et il faut se mettre à leur place. On était en 1914, donc début de la guerre, et il n'y avait pas tous les équipements qu'il y a aujourd'hui, toutes les photographies, etc. Et roman passionnant. Et puis un côté business, là je lis un bouquin que j'adore qui s'appelle Imit, et qui en fait explique la manière dont il faut voir son business. Et je trouve qu'il y a plein de, à la base c'est pas un livre pour les indépendants, mais je trouve qu'il y a plein de parallèles intéressants, et je trouve que bah là pour le coup il y a plein de choses qu'on peut appliquer à une activité indépendante pour aussi réussir à se projeter et à comprendre un petit peu dans quel état d'esprit on est aussi quand on se lance en freelance et quand on a envie de développer son activité.
Bon bah écoute, merci beaucoup Alexis.
Merci beaucoup Stéphane.
À bientôt.
Salut.
Salut Grégoire.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ah, très bien, je suis au taquet là.
Bon, le confinement se passe bien pour toi?
Oui, alors moi ça se passe bien, comme j'ai dit pas mal de fois déjà cette semaine. Moi je suis au Ménir, je suis en station de ski, donc le soir, 1 km autour de chez moi, c'est la montagne. Donc voilà, c'est plutôt cool, il n'y a personne, il n'y a pas de queue dans les supermarchés, donc ouais, non, le confinement se passe plutôt bien pour moi.
Assez top, ouais, t'as de la chance. Alors je te vois justement beaucoup communiquer. Alors je sais pas si tu communiques plus d'ailleurs durant cette crise ou pas. Dans tous les cas, je voulais avoir ton avis, puisqu'il me semble être en plus assez tranché, sur faut-il justement faire du marketing, se montrer, communiquer. C'est quoi ta position?
Bah, moi, ma position, c'est que on peut pas faire comme avant. On peut pas communiquer comme avant. Moi, je vois des boîtes qui sont là et qui communiquent comme si de rien n'était, qui font des pubs comme si de rien n'était. Ça, je pense que ça tombe complètement à côté de la plaque. Par contre, je pense que c'est pour certaines boîtes, c'est une vraie opportunité de communiquer, c'est-à-dire pour les boîtes qui ont un produit qui est utile aux personnes en temps de confinement. Et pour les boîtes comme nous, bah, c'est aussi une question de survie, c'est-à-dire. Nous on a perdu du chiffre d'affaires, alors on a perdu 70% la première semaine, et là on a réussi à mettre en place des mesures qui font qu'on a perdu que 20-25% de notre chiffre d'affaires, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Mais on a réussi à signer des nouveaux contrats en communiquant de la bonne façon avec un certain axe, et pour nous c'est une question de responsabilité. Moi j'ai pas envie de fermer la boîte, j'ai pas envie de mettre 30 salariés dehors, et du coup c'est une question de responsabilité. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de boîtes qui expliquaient que pendant ces temps un peu troublés, elles décidaient de ne pas communiquer, de se concentrer sur faire du contenu gratuit, etc. Et en effet, c'est une bonne approche, mais nous, on a des salariés à payer, et je pense que c'est ma responsabilité en tant que CEO de trouver la façon de communiquer, la meilleure façon de communiquer, une façon d'aller chercher des clients pour qu'on puisse continuer l'aventure et continuer à bosser avec les gens qui nous font confiance. Quoi.
Donc, et alors, vraiment, c'est quoi là, ouais, c'est quoi là, alors les meilleures façons justement de communiquer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire surtout?
Bah alors, moi je pense que il faut se dire ok, comment en fait on est sur un nouveau marché. Clairement là, on a un marché qui a complètement changé. On a eu la première semaine de panique où je pense que là c'était pas du tout de bon ton de communiquer. Je veux dire, tout le monde, première semaine de confinement, personne savait comment faire. Tout le monde découvrait un peu ce qui se passait. Là, je pense que c'était pas la bonne semaine pour communiquer,
ouais, clairement. La sidération totale. Ouais.
Voilà, sidération, panique, on peut appeler ça comme on veut. Je pense que c'était pas le bon moment pour communiquer, et nous on n'a pas communiqué pendant cette période, on a juste fait un post très sobre en expliquant ce qu'on pensait de la situation pour aider les gens, mais c'était vraiment très sobre, c'était pas vraiment la communication, c'était juste moi j'ai voulu prendre la parole en tant qu'individu qui connaissait un petit peu, voilà, ma copine est médecin, elle est dans un centre Covid, etc. Donc je me suis permis de prendre la parole, mais c'était vraiment en tant qu'individu, c'était pas au nom de l'entreprise, c'était pas du market, pas vraiment de la communication. Et ensuite par la suite, je pense que la bonne façon de communiquer, c'est ok, on est dans un nouveau marché. Les règles ont changé, les gens ont plus les mêmes besoins, les gens sont confinés chez eux, donc ils ont des besoins différents, les entreprises ont des besoins différents, les gens ont des réflexes différents, il faut s'adapter à ce marché et se dire ok, comment est-ce qu'on apporte de la valeur à des gens dans ce nouveau marché. Donc pour certaines boîtes, ça va être leurs produits, tout simplement. Par exemple, les boîtes qui aident à faire des webinars, des podcasts en ligne, etc., c'est communiquer en disant on vous accompagne, et votre produit Slack, Zoom, toutes ces solutions vont vous aider à continuer à travailler. Donc ça, il y a un vrai devoir de communication marketing en expliquant on va vous aider à sortir de là. Il y a les boîtes qui, comme nous, profitent pas du tout du Covid, où là nous ce qu'on avait, c'est ok, comment est-ce qu'on peut aider les gens à traverser cette étape. Donc là nous on a fait beaucoup, on a lancé une chaîne qui s'appelle du fin fond de la mine, enfin sur notre chaîne YouTube Germinal, mais du fin fond de la mine, où en gros on va voir des gens et on fait un truc sans slide, pas de bullshit, on parle vrai, et en fait on parle de la crise et on dit comment continuer à vendre, comment continuer à faire du growth, etc. Et ça, je sais que les gens ont énormément apprécié parce que ça a inspiré beaucoup de gens. Et vu qu'on a énormément de clients, on a pu leur donner des exemples de boîtes qui avaient fait des choses, qui avaient fonctionné, continuer à vendre, continuer à faire du growth, continuer à faire du chiffre d'affaires. Et voilà, nous, c'est comme ça qu'on a communiqué, c'est en aidant les autres boîtes. Donc, on a principalement communiqué sur ce biais-là parce que dans notre position, c'est la seule chose qu'on peut faire. Après, d'autres boîtes peuvent faire d'autres choses, mais je parle de nous. Et la deuxième chose, c'est on a lancé de la formation en ligne. Ça faisait des mois qu'on faisait, on avait lancé de la formation en physique et ça fait des mois qu'on se dit qu'il faudrait lancer de la formation en ligne. Et là, c'est l'occasion d'aider tous les gens qui sont confinés chez eux à leur apporter de la valeur, à les faire monter en compétences en cette période qui est compliquée. Bien entendu, il y a aussi un intérêt business, mais un intérêt business sans apporter de la valeur dans une période de crise comme ça, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous ne devez pas réfléchir comment dire. Si je devais conseiller quelque chose aux boîtes, c'est ne vous dites pas comment est-ce que je peux résoudre un petit problème, comment je peux atténuer, passer un peu de pommade. Aujourd'hui, vous devez aider les gens à sortir de là. Et votre solution, elle doit aider les gens à sortir de là. Et quel que soit votre contenu, votre communication, votre produit, dans une période de crise, les besoins sont plus forts et du coup, les solutions doivent être encore plus radicales. Voilà, j'ai parlé très longtemps.
Ouais. Ouais, non, c'est très bien. Et alors, pour le coup, pour des business models qui sont complètement là à l'arrêt, je pense par exemple au secteur du bâtiment. Hein, ouais. On fait quoi? Parce que là, c'est très difficile de pivoter. Autant là, tu t'expliques bien que, notamment à travers ton exemple sur la formation, c'était du présentiel. Bon, boum, je l'ai pivoté et j'en fais une version online. Bon, c'est pas entre guillemets, c'est pas très très compliqué à faire. On pourrait imaginer, j'en sais rien, aller à un libraire qui se mette sur internet et qui se mette à livrer ses bouquins. Bon, maintenant quand tu construis des immeubles, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des solutions pour pivoter. Alors tu fais quoi? Tu t'arrêtes tout? Tu communiques quand même?
Moi, je pense que en effet, ça, c'est vraiment les cas qui sont compliqués. Pour les grosses entreprises, d'autant plus, c'est très, très, très compliqué. Mais pour une petite entreprise, moi, ce que je recommandais, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle hein, dans ces cas-là. Mais moi, ce que je recommande à des boîtes, par exemple, hier, il y a une boîte qui était en BTP, qui faisait des fenêtres, etc. Alors, c'était pas des travaux dans le dur. Mais c'est OK. Il y a plusieurs choses que vous pouvez travailler. Déjà, si vous pouvez travailler votre marque employeur à ce moment-là, si vous avez du mal à recruter. Je sais que dans le BTP, il y a beaucoup de boîtes qui ont du mal à recruter. Ça peut être communiquer sur ce que vous faites pour vos salariés, pour les protéger, faire du contenu, faire des interviews. En fait, vous donner plus de visibilité pour vous aider à recruter, pour préparer la crise, si vous pouvez pas vous aider à trouver des clients. Donc, il y a vraiment travailler la marque employeur. Nous, je sais qu'on a fait pas mal d'interviews, etc. Et mon RH, il a laissé des offres ouvertes, il discute et c'est un moment où on a beaucoup de candidats et ça nous permet de préparer la reprise. Ce que je vous dis après, c'est pas de solution miracle. Il y a des business qui vont être très durement impactés, mais voilà, il faut aussi voir là-dedans qu'est-ce qu'on peut faire malgré tout. La deuxième chose, c'est communiquer sur votre contenu, votre métier, dire bah voilà, on a un savoir-faire et jusqu'à maintenant, on n'a jamais communiqué dessus, on n'a jamais fait de vidéo, on n'a jamais fait de podcast, on n'a jamais fait de live pour expliquer notre métier auprès de nos clients, que ce soit en B2B ou en B2C. C'est peut-être le moment de communiquer ce que je vous dis, d'apporter de la valeur et de dire aux gens, moi je vous disais, la boîte qui faisait des vérandas, je leur disais, c'est peut-être le moment de générer, de faire un formulaire, d'expliquer à quel moment il faut faire des vérandas, quels sont les types de vérandas, qu'est-ce que vous pouvez changer, comment est-ce que vous pouvez préparer l'été, etc. C'est peut-être le moment de communiquer là-dessus. Et de dire, mais pas de dire acheter notre véranda, de dire préparer l'été, parce que oui, dans 3 mois, dans 4 mois, j'espère que ce sera fini et ce sera le moment de redémarrer. Donc, c'est comment est-ce qu'on prépare la reprise. Donc voilà, moi, c'est les conseils que je peux donner, même si, vous voyez, il y a certaines industries où c'est particulièrement compliqué. Il faut quand même arriver à s'en sortir et je pense que du côté de apporter de la valeur à ses futurs prospects pour préparer la reprise et préparer ses recrutements et communiquer sur sa marque employeur, c'est deux choses qu'on peut faire. C'est pas parfait, mais c'est déjà ça.
Non, mais je te rejoins à 200%. Je suis en train d'écrire justement un article là sur mon blog en préconisant de mettre à profit cette période où on a peut-être un petit peu plus de temps, notamment quand on est dans une industrie qui est complètement à l'arrêt, pour justement se lancer dans le content marketing et s'y mettre enfin sérieusement. Donc voilà, c'est effectivement pour moi une belle manière de préparer la reprise et de pivoter au moins son marketing, si c'est pas ses offres, au moins sa façon de communiquer, de faire du marketing et pourquoi pas de faire du commerce. Dernière question avant de te laisser, est-ce que c'est aussi un bon moment pour les grosses structures de tenter de se mettre au growth hacking?
En fait, Ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai beaucoup de mes clients, c'est assez drôle, je vais vous prendre l'exemple de L'Oréal, qui fait du très bon taf. Et en fait, L'Oréal, d'un côté, ils ont une stratégie de notoriété, là, en face, ils ont une stratégie de perf. Et du coup, là, ils ont coupé toutes leurs expérimentations en ce moment. Et c'est normal parce qu'ils doivent se réorganiser, ils ont beaucoup de distributeurs qui sont au chômage partiel, etc., qui ont fermé. Donc, c'est compliqué et je les comprends. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est qu'à côté de ça, on accompagne des startups dans la cosmétique qui vendent des cosmétiques qui sont du coup, quelque part, des concurrents indirects de L'Oréal et qui ont continué. Et comme il y a beaucoup moins de concurrence sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup moins d'annonceurs qui font de la publicité. Du coup, mécaniquement, le coût par clic, le coût pour 1000 impressions baisse et du coup, le coût par conversion aussi, mécaniquement. Ce qui se passe, c'est que du coup, sur un marché qui baisse le make-up, etc., on a quand même des super résultats. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, la plupart des startups, du coup, se mettent à faire du growth avec nous pour arriver à avoir de la perf malgré le fait que le marché baisse et de profiter de cette baisse de concurrence. Il y a une baisse de la demande, mais il y a une baisse de la concurrence qui est encore plus forte. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le moment où les grands comptes, justement, devraient faire du growth hacking, c'est-à-dire être en mode hyper rapide, itératif, tester énormément de choses avec des petits budgets et augmenter les budgets quand ça fonctionne, parce qu'il y a des vraies opportunités dans beaucoup de marchés. Et c'est le moment pour eux de transformer leur acquisition et de passer d'une logique notoriété avec peu de ROI à une optique conversion héroïste, test, parce qu'on est dans un environnement incertain. Et quand vous êtes dans un environnement incertain où les règles ont changé, vous devez absolument faire du ROI et de la vente parce que l'avenir de votre entreprise en dépend, c'est le moment parfait pour faire du growth. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment parfait pour les grosses boîtes de se mettre au growth parce qu'elles sont obligées, parce que le marché change, que les règles ont changé et qu'ils vont changer encore pendant plusieurs mois et que du coup, ils savent pas ce qui fonctionne. Quand vous êtes dans un marché qui est stable depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pouvez vous permettre de pas faire du test en permanence. Et encore, je le conseille pas, mais vous pouvez, ça peut se faire. Donc oui, pour moi, c'est vraiment un bon moment. Le problème, c'est que d'un point de vue organisationnel, pour eux, c'est très, très, très difficile de mettre des choses en place. Et on a quelques gros clients qui ont réussi à garder cette agilité, qui lancent des campagnes avec nous et qui en sont très, très, très contents. J'insiste. Je peux vous donner le nom, mais les autres, le problème, c'est qu'ils sont bloqués, tout est bloqué. Et en fait, vous savez, c'est une boîte comme ça, une grosse boîte, ça se calcifie, ça perd son agilité. C'est normal, c'est aussi comme ça que ça marche. C'est comme ça que vous tenez 100, 150 000, 200 000 salariés. C'est aussi avec une certaine rigueur, des process. Et du coup, bah, ils sont à l'arrêt, ils profitent de rien, ils vont sans doute perdre plusieurs mois. Donc oui, je pense que c'est le moment de s'y mettre.
Ok. Allez, dernier mot pour la fin, là, puisqu'on a un petit peu de temps, tes lectures que tu recommanderais.
Alors la lecture, si vous êtes CEO, c'est Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz. Mm-hmm. Donc Hard Things en français, c'est aux éditions Dunod. Ils ont été traduits en français, juste Hard Things. C'est un livre sur comment être CEO, enfin PDG, en temps de guerre. Wartime CEO, you know. Et en gros, il vous explique comment lui, il est parti d'une boîte où il a dû licencier tout le monde et il a fini par la revendre à 1,6 milliard en pleine crise, en plein éclatement de la bulle Internet. Si je me souviens bien, c'est une crise des années 2000. Est-ce que c'était la bulle Internet ou celle d'après? Bref, c'est pas grave. Et c'est vraiment le bouquin à lire. C'est vous comprenez à quel point vous pouvez être mal, à quel point ça peut être difficile, à quel point vous pouvez licencier 90% de votre boîte, mais vous pouvez quand même vous en sortir et faire un truc incroyable avec votre équipe. Et moi, c'est vraiment un livre qui m'a inspiré, que j'ai lu en octobre et qui est mon livre de chevet, qui en ce moment est sans doute le livre le plus utile pour moi. Et c'est les meilleures circonstances pour lire ce bouquin. Donc voilà, je vous le recommande chaudement. C'est le moment d'y aller, quoi. C'est le moment de comprendre et de s'inspirer des plus grands leaders et des mecs qui ont réussi vraiment, des nanas qui ont réussi à s'en sortir dans des conditions aussi difficiles que ça.
Ok, super. Merci Grégoire.
Merci, à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Salut Bruno.
Salut.
Comment vas-tu?
Bah écoute, je vais bien, compte tenu de la situation, on va dire.
Ouais, vu le contexte, c'est pas facile, mais bon, le moral est bon.
Le moral est bon, la santé est bonne aussi, pour moi, pour mon entourage proche, c'est déjà ça.
Oui, c'est bien évidemment le principal. Alors Bruno, merci d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast collectif. Donc, même question qu'avec mes autres invités, en cette période de confinement, faut-il communiquer, faut-il faire du marketing? Et si oui, comment?
Alors, faut-il faire du marketing, faut-il communiquer, faut-il vendre, faut-il continuer comme avant? J'ai envie de dire comme avant, c'est juste pas possible parce que même si on peut continuer à le faire en termes de messager, d'expression du message, en face, les gens, à mon sens, ne peuvent pas le recevoir comme avant. Donc, on doit s'adapter. Je pense qu'il y a eu une période où, en fait, communiquer était très, très mal perçu au départ parce que les gens n'étaient pas prêts à recevoir un message. Ils étaient en pleine réorganisation. Fallait mettre en place le télétravail. Donc, fallait avoir les outils, avoir les plateformes, avoir le matériel, même pour que tes collaborateurs, s'ils ne sont pas équipés de portable, ils font comment du télétravail, gérer la confidentialité avec les connexions, arriver à réorganiser notre travail quotidien avec à distance, ce qui n'est pas évident. Et puis, tu as aussi, j'ai envie de dire, le fait de vérifier qu'il y a du travail. Parce que dans télétravail, tu as travail, mais tu te rends compte que c'est pas parce que tu as un ordinateur que tu peux travailler de chez toi, qu'en fait, les missions continuent. Tu as quand même beaucoup de gens qui n'ont plus assez d'activité. Les premiers temps, tu gères les dossiers, puis après, t'attends du boulot parce que tu n'as pas assez de masse de travail pour occuper tout le monde à temps plein. Et en même temps, tu en as d'autres qui sont débordés, mais eux... J'ai envie de dire, ils nous sauvent la vie, et c'est quand même des professions qu'on avait un peu tendance à pas oublier, mais à maltraiter, alors qu'en fait, ils sont fondamentaux pour notre vie, quoi. Donc, si je reviens sur la communication, c'est une vraie bonne question que j'ai eu à me poser moi-même, c'est est-ce que je peux continuer à faire la même chose, sachant que, si tu veux, moi, mon job, c'est de former et d'accompagner les gens à maîtriser l'outil LinkedIn, donc... Tu te dis, la situation, elle est entre guillemets, elle est géniale. Les gens sont chez eux, faut les occuper. Moi, je peux le faire à distance. En plus, je vais leur proposer de maîtriser un outil pour développer leur influence professionnelle sur la plateforme. Mais en même temps, on est entouré de gens malades, de morts au niveau mondial. Je savais pas quoi faire au début. Hein. Je savais pas. Est-ce que je continue à vendre ou pas? Mais est-ce qu'on a envie d'acheter? C'était des vraies questions. Puis petit à petit, je pense que tu regardes ce qui se passe, la notion de solidarité, la notion. Alors, je vais utiliser le mot opportunité, mais dans le bon sens du terme, si tu veux, tous les outils qui, dans un élan de solidarité, permettent d'utiliser leurs propres solutions gratuitement, mais pour aider. C'est une opportunité de se faire connaître et de travailler sa solidarité, enfin de participer à la solidarité. Donc, tous ne sont pas aussi bienveillants, j'ai envie de dire, mais bon, restons positifs. Hein. On ne va pas changer la nature humaine de A à Z. Est-ce qu'il faut continuer à faire son marketing? J'ai envie de te dire oui, parce que sans ça, tu vas disparaître de l'esprit des gens. En revanche, le message que tu vas porter, le message que tu vas partager, la communication que tu vas faire, elle doit être radicalement, à mon sens, différente pour être complètement adaptée à la mentalité des gens qui vont recevoir ton message. Parce que ce qui est important dans la com, c'est pas forcément ce que toi tu exprimes, c'est qui reçoit, comment il le reçoit et comment il te perçoit à travers la réception de ton message. Et je pense que là, on a un vrai changement qu'on commence à voir pour être plus dans cette solidarité, cette entraide, quoi. C'est complètement con pour une marque. Tu vois, je te prends un exemple. C'est très con pour une marque d'envoyer un bon d'achat pour aller en magasin. Ben, c'est une marque. T'as pas le droit de sortir, quoi. Donc, change ton message. Arrête tes outils d'automatisation, ta planification de tous tes messages qui permettent de se rendre compte que les gens, les directions, enfin, je sais pas qui est à la manœuvre, mais ne savent même pas quels sont les plans de com plus ou moins automatisés qu'ils ont mis en place. Sinon, ils les auraient arrêtés.
Ouais, c'est clair. Alors maintenant, comment bien préparer cette sortie de crise?
Honnêtement, je sais pas. Fondamentalement, je sais pas, parce que quand est-ce qu'on va sortir de crise? Parce que si tu veux, ce qui se passe pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on en est quoi? On en est en France, on est à la troisième semaine. Est-ce que ça va durer 4 semaines, tel qu'aujourd'hui c'est parti, puisqu'on a eu 15 jours et 15 jours, est-ce que ça va durer 6 semaines? Est-ce que ça va durer 8 semaines? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que on pollue moins, l'air est respirable, la planète va mieux, on l'emmerde moins, donc la nature se régénère, on se rend compte qu'il faut qu'on change nos méthodes de travail, parce que le télétravail, bah, finalement, c'est pas mal, on y arrive à marche forcée. Les outils digitaux nous rendent service. Donc, on est en train de se rendre compte de ça. Mais mon sentiment personnel, si tu veux, c'est que pour qu'on ne revienne pas au monde d'avant trop rapidement quand on sort de crise, il faut que la crise, enfin le confinement en tout cas, dure plus longtemps pour qu'on ait le temps de vraiment réfléchir et de vraiment se rendre compte et de vraiment changer nos circuits neurologiques qui vont faire qu'on va ancrer des nouvelles habitudes bien plus fortement que si on sort d'une crise trop vite qui va nous faire repartir complètement comme avant. Et là, tu commences à t'en rendre compte déjà. Tu vois, hier, il y avait sur France TV, dans l'émission C'est à vous, tu avais la prise de parole d'Emmanuel Faber, le PDG de Danone, qui embarque tous les patrons. Et là, on parle des patrons, des boîtes aussi du CAC 40. Donc, de l'économie, donc de la bourse qui s'est effondrée et donc de la crise économique qu'on va vivre, qui prend des décisions et qui veut embarquer tout le monde pour se rendre compte que cette crise qu'on vit, il faut qu'elle nous permette de changer tel qu'on est en train d'en parler depuis des années et de ne pas faire grand-chose, honnêtement.
Oui, il faut que ça soit un accélérateur.
Oui, il faut que ça soit un accélérateur. Alors, comment on sort de la crise ? Bah, j'en sais rien très concrètement, parce que déjà, quand est-ce qu'elle va s'arrêter ? Comment on va en sortir ? Parce qu'on parle d'une crise, mais en fait, la crise, elle ne va pas s'arrêter le jour où on va dire le confinement, il s'arrête, quoi. On va sortir progressivement du confinement. Donc, la crise, entre guillemets, la situation va perdurer au-delà de la fin du confinement qui va s'étaler dans le temps. Et donc, comment on en sort ? Bah, je pense qu'il faut partir du principe qu'on est peut-être en train de se réorganiser, non pas pour un temps limité, mais pour un temps long. Et qu'en fait, on doit se réorganiser pour changer vraiment de façon de travailler. Alors, on est d'accord, hein, il y a des métiers, les nôtres, on est très digitaux, on est très outils et on peut travailler à distance. Donc, nous, c'est facile, entre guillemets. Mais tu as quand même des industries où il va falloir, où ça ne sera pas facile. Enfin, quand tu produis en usine, tu produis en usine. Hein. Donc, il y a tout un travail qui, à mon sens, doit être fait pour anticiper cette sortie, qui est plus d'anticiper le nouveau monde dans lequel on va se retrouver, parce que rien ne nous dit que l'année prochaine, la pandémie ne recommence pas. Hein. Si on n'a pas de vaccin, ben, je veux dire, je ne suis pas scientifique là-dessus, mais si c'est comme c'est un virus, si le virus y revient, tu fais quoi si tu n'as pas de vaccin ?
Alors, pour en revenir plus spécifiquement à LinkedIn, qui est ton cœur d'expertise, qu'est-ce que tu conseilles là actuellement à tes clients en termes de communication sur LinkedIn ?
Alors, tu vois, justement, j'ai deux clients qui m'ont demandé de mettre en place des formations à distance pour former leurs commerciaux. Évidemment, ils sont chez eux, sont confinés, ils ont moins de possibilités d'être en clientèle. Et donc, c'est l'occasion aussi de les former à des nouveaux outils qui vont leur permettre de mieux faire leur job, quoi. Et c'est un outil professionnel. Si on parle là vraiment LinkedIn, c'est un outil professionnel c'est un outil pour se connecter à d'autres professionnels. C'est un réseau social qui est un petit peu différent pour moi des autres, parce que son objectif et de permettre à des professionnels de se connecter entre eux. On est énormément...
Oui, on est très clairement B2B, là.
Oui, on est B2B. Enfin, on peut être aussi B2C, mais pas en vente. Ce que je veux dire, on est sur un outil qui permet à des professionnels de faire valoir leur expertise pour faire leur job dans leur entreprise, pour évoluer au sein de l'entreprise, au sein d'un groupe, s'ils sont dans un grand groupe, ou changer de boîte, changer de job, une reconversion. Donc, on est sur notre versant professionnel et c'est le seul aujourd'hui qui soit vraiment focus là-dessus. Donc c'est l'occasion, et tout le monde, on voit qu'il y a beaucoup plus le digital, internet, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'utilisation, beaucoup plus de connexion, et les réseaux sociaux bénéficient de cet afflux, puisque de toute façon on est confiné chez nous et le seul moyen d'être en contact avec les autres, c'est via les réseaux sociaux et tous ces outils. Et donc pour les professionnels, bah, c'est aussi de continuer à peut-être à apprendre, à développer son réseau, à rester au contact de ses clients et à pouvoir échanger avec eux sur ce réseau-là, à identifier aussi des opportunités futur, j'ai envie de dire, business, parce que je peux me connecter avec des personnes qui sont cohérentes avec mon écosystème business, avec l'ensemble des, je dirais, des entreprises, des secteurs d'activité avec lesquels je travaille, pour pouvoir initier des relations qui sont complètement différentes. Quand je dis différentes, par rapport au contexte, c'est-à-dire que tu vas pas prendre contact pour aller vendre tes prestations. Tu vas faire de l'humain là. Tu vas vraiment revenir aux fondamentaux de ce qui moi m'intéresse sur les réseaux sociaux et principalement sur LinkedIn, c'est d'être dans des relations humaines professionnelles.
Oui, alors finalement, c'est une très belle opportunité de profiter du temps que beaucoup de personnes ont en plus actuellement pour justement aller communiquer auprès de sa communauté sans vendre.
Exactement. En fait, ça a même un double avantage parce que tu peux le faire à titre professionnel, ok, si t'as bien identifié tes objectifs business pour le futur, mais en même temps, tu vas aussi construire ton ce que je vais appeler ton influence professionnelle au-delà d'un acte de vente, si je parle des commerciaux, ou d'un acte purement mercantile, purement business. C'est-à-dire que tu vas te connecter avec d'autres humains, tu as des gens qui sont des professionnels qui ont une prise de parole, enfin des professionnels qui sont cohérents en fait avec ton écosystème business, donc qui peuvent représenter un prospect, une référence, un futur client. Et en même temps, la reprise de parole est complètement déconnectée du cœur business parce que elle s'exprime en tant qu'humain sur les difficultés qu'elles peuvent avoir. Je parle pas de santé, mais les difficultés à gérer ce confinement. Enfin, tous les gens qui avaient déjà l'habitude, un peu comme nous, de travailler à distance, et notamment chez eux ou dans un espace de coworking, c'est pas très gênant de travailler à distance, mais il y a des gens qui ne savent pas faire, même s'ils peuvent. C'est hyper difficile de passer du jour au lendemain de l'ambiance du bureau à t'es chez toi, même si ton travail, fondamentalement, ça ne change rien dans sa réalisation. Donc il y a des gens qui prennent la parole et qui s'expriment sur ces difficultés, comment ils vivent le confinement. Et donc là, on est sur effectivement des sujets qui sont humains, néanmoins, ce sont des gens qui sont cohérents avec ton écosystème business, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir tes clients si tu veux. Et donc, c'est intéressant de pouvoir discuter avec eux, d'échanger, mais on ne parle pas de business, on parle de relations humaines. On initie une relation humaine, on crée de la confiance, on va créer en fait ce qu'on fait tous les jours dans la vraie vie. Là, on peut le faire à distance en allant commenter. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Les 15 premiers jours, honnêtement, je ne savais pas quoi publier. Je ne savais pas quoi dire ni comment le dire. J'étais en observation. En revanche, j'ai énormément commenté. J'ai commenté pour parler aux gens, pour montrer que j'étais là, pour que eux puissent me parler aussi parce que ça m'aidait. Donc, j'ai fait énormément de conversations en direct ou en public avec des commentaires, voire sur des gens que je connaissais pas, mais leur discours me touchait, les difficultés qu'ils rencontraient. Ça restait professionnel dans les grandes lignes, si tu veux. On n'était pas en train de parler de sa vie privée. C'était la difficulté professionnellement qu'on a à vivre cette situation. Donc, c'est une occasion de créer du lien, en fait, de montrer qu'on est là, qu'on est solidaire et qu'on, si on peut aider, on aide.
Ok, d'accord. Bon, c'est également l'opportunité de développer ses facultés à être empathique.
Alors, développer ses facultés à être empathique, oui, exprimer son empathie. Je ne suis pas sûr que la situation fasse qu'on puisse les développer si on n'est vraiment pas câblé là-dessus. Ça peut arriver, si tu veux. Et ça se voit, il y en a encore. Il y en a, ils n'ont rien changé à leur attente. Et il y en a qui se font bâcher publiquement parce que les gens ne comprennent pas, quoi. Donc, c'est plus de pratiquer ton empathie que de te mettre à comprendre que ça existe et que tu peux la développer.
Ok, donc dans tous les cas, le mot pour la fin, notamment pour LinkedIn, profiter finalement de cette crise pour être présent, communiquer de manière humaine, développer son réseau, puis en faisant ça, on prépare, dans tous les cas, on maximise ses chances de bien préparer la sortie de crise.
Oui, et puis en même temps, c'est une façon de bien vivre la crise. Sur les réseaux sociaux, les autres réseaux sociaux, tu vas être plutôt avec des amis, avec des proches, avec des gens qui qui sont plus dans ton univers personnel, si tu veux. Là, tu as une occasion de garder la tête hors de l'eau d'un point de vue professionnel parce que tu vas interagir avec des gens que tu connais, mais aussi avec des gens que tu connais pas, en ayant un comportement professionnel. C'est un peu comme si tu allais dans un immense salon de networking. La thématique est très générale et tu connais pas forcément les gens. Tu vas pas aller t'asseoir dans un coin, quoi. T'es dans le salon, tu vas parler aux gens parce que le but du jeu c'est de rester vivant et de rester actif et de se préoccuper de soi et des autres. Et donc c'est une opportunité énorme d'aller sur ce réseau pour pouvoir rester alerte d'un point de vue professionnel. On parle beaucoup de, tu vois, un sportif aujourd'hui qui s'entraîne tous les jours, il fait quoi là aujourd'hui? Il va s'entraîner chez lui. C'est vachement plus dur pour lui, tu vois. Faire des pompes sur son parquet, c'est pas la même chose que quand tu vas courir un footing de 25 km, quoi. Et donc, c'est un exercice pour se tenir en forme professionnelle, d'être sur le réseau et de parler, de lire, de parler, d'interagir pour continuer à rester alerte, quoi. À préparer, en fait, la sortie de crise où là, d'un point de vue business, on va avoir besoin de tout le monde.
Allez, pour finir, quelques recommandations de bouquins, puisqu'on a un peu plus de temps pour s'y consacrer et se consacrer à la lecture. Alors, bien évidemment, ton bouquin déjà.
Ouais, mon bouquin, Maîtriser LinkedIn, qui existe aux fonctions digitales, c'est bien. Bon, ouais, je pense qu'on peut encore le commander et se faire livrer, mais c'est plus long par la poste. Mais il y a ce livre-là, et puis après, il y a les blogs, il y a les personnes. Et puis il y a tous les livres, ouais, qu'on peut récupérer de façon digitale. J'ai envie de dire qu'après il faut aller piocher tout ce qui existe, se faire son propre avis pour aller pouvoir s'enrichir, parce que peut-être aussi accepter d'aller lire des choses sur lesquelles on n'est pas forcément en phase pour apprendre et prendre le temps de se faire une idée un petit peu différente sur le sujet.
Et tes recos là, toi, personnel? Ou bien les bouquins que tu es en train de lire là actuellement?
Alors je lis pas mal de choses sur les neurosciences, des livres sur les neurosciences pour comprendre, parce que c'est assez intéressant de voir comment en fait le cerveau fonctionne, et c'est très large, hein, ça va au-delà des réseaux, c'est-à-dire que quand je te dis qu'il faut effectivement que c'est paradoxal, mais que la crise dure, que le confinement ait une certaine durée pour qu'on aille, qu'on ancre vraiment dans notre cerveau des nouvelles façons de travailler et qu'on ait le temps de se poser les bonnes questions, de tester, de se rendre compte que ces nouvelles habitudes, on peut les continuer parce qu'elles sont bonnes pour nous, elles sont bonnes pour les autres, elles sont bonnes pour notre entreprise, elles sont bonnes pour la planète d'un point de vue écologique. Et donc, c'est les neurosciences qui nous permettent d'apprendre ça. Je lis aussi des choses sur tout ce qui est un peu écologique et cette notion de collapsologie. Alors, un petit bémol, les collapsologues ne sont pas là pour vous dire que le monde est détruit. Les collapsologues sont là pour étudier tous les systèmes complexes et faire des hypothèses à partir de ce que l'on peut voir et envisager effectivement cette notion d'effondrement qui quelque part a déjà eu lieu petit à petit. Il n'y a pas une date d'effondrement, hein. Mais ça nous permet d'anticiper. J'ai envie de te dire qu'on n'a peut-être pas prévu une pandémie. La preuve, on a beaucoup de mal à anticiper ce qu'on doit faire. On ne l'a pas prévu. Et ben, un collapsologue, il est aussi là pour étudier et nous aider à envisager une évolution de notre monde, puisque de toute façon, comme je le disais, à un moment donné, on était dans une voiture qui fonçait à fond dans un mur. Là, on a tout arrêté, hein. Si à la sortie, on revient, on reprend la voiture et on repart comme avant, on prend le mur de face, hein. Donc c'est une occasion en or qu'on a de pouvoir redéfinir nos priorités, redéfinir la mondialisation. On se rend compte de plein d'erreurs qu'on a pu faire, quoi, qui nous coûtent cher, hein, qui nous coûtent cher aujourd'hui. Donc voilà, c'est les deux types de lectures que je peux avoir aujourd'hui. Et le dernier livre qui est super intéressant que j'ai lu et qui n'est pas du tout sur ce sujet-là, c'est celui d'Onesta, l'ancien entraîneur de notre équipe de France de handball, qui est super intéressant, qui a quelques années là, mais il est super intéressant pour voir sa vision, et c'est hyper intéressant de voir de l'intérieur par rapport à ce qu'il raconte, comment ça se passe, comment il a géré l'équipe pour arriver au titre qu'on a gagné, que la France a gagné, que lui a permis aux joueurs de gagner, avec des parallèles dans la vie de tous les jours, les relations humaines, le management, etc.
Ok, bon, ben super, merci beaucoup Bruno.
Et ben c'est moi qui te remercie.
À bientôt.
Allez, à très vite.
Bonjour Frédéric.
Salut Stéphane.
Comment tu vas ?
Oh bien, un peu comme tout le monde, un peu confiné comme une sardine, ouais. Mais bon, on va dire que le marketing continue et ne s'arrête pas.
Alors justement, belle transition, faut-il communiquer, faut-il faire du marketing, faut-il tenter de vendre durant cette période de confinement et de crise du Covid ?
Alors moi je dirais oui. Alors il y a eu quand même plusieurs étapes, c'est comme dans toute entre guillemets crise, il y a un moment donné où il faut un petit peu laisser les gens prendre leur marque. Par exemple, nous on devait faire en fait un salon, tu le connais, salon e-marketing stratégie client, en début avril. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a été annulé. Et nous, on s'est dit, tiens, on va faire un événement en ligne. Et donc, on avait calé une date au 31 mars. Et bien entendu, quand la décision est arrivée le 17, on s'est dit, oh là là, vache, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, on s'est dit, bon, allez, c'est pas grave. On va quand même lancer. On a lancé la série de webinars. Il y en avait 4 sur 2 jours. Et donc, c'était quand même un gros événement. Et on s'est dit, on va quand même le lancer. Mais par contre, on va faire quelque chose. On va se lancer, bien sûr, en amont. Mais au moment de la crise, entre guillemets, du confinement, donc le 17 mars, on a dit pendant 3 jours, stop. On relance pas, parce qu'avant, on avait fait des inscriptions, mais pendant ces 3-4 jours-là, on laisse les gens rentrer chez eux, gérer un petit peu la pression, gérer les mômes, l'organisation. Donc là, c'était vraiment un moment où on s'est dit stop, on va dire pendant du 17 au 20 et quelques, on a dit rien du tout, on fait plus rien. À partir du jeudi, là, on s'est dit, bon, ça y est, maintenant, les gens ont pris un peu leur marque. Il y a d'un côté les gens qui travaillent beaucoup et qui seront super débordés. Et d'un côté, tu as l'autre persona, c'est la personne, en fait, qui, je dis pas désœuvrée, mais qui a moins de travail et qui est un petit peu à l'écoute d'avoir un peu de choses qui vont le distraire. Surtout, on est tombé sur une bonne période, c'est-à-dire qu'on est arrivé à peu près 15 jours après le confinement et les gens ont commencé forcément à se dire, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que dans les premiers jours, généralement, ils étaient bien occupés, puis après, bon, voilà, c'est un peu plus calme. Et c'est vrai que tout le monde s'est un peu lancé dans cette fièvre du webinar, mais nous, on a pris vraiment un temps d'avance, ce qui nous a permis d'aller capter un peu de demande. En revanche, c'est vrai que ce que tu disais, ce qui a changé, c'est qu'auparavant, on envoyait en fait un emailing sur nos bases, et voilà quoi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus travaillé, surtout moi, j'ai travaillé beaucoup sur le réseau. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait une grosse promotion sur LinkedIn avec des messages qui sont très personnels. C'est-à-dire que autant avec Eloquent, qui est la boîte pour laquelle je travaille, on a fait vraiment des messages très corporate, etc., etc. Autant dans la prise de contact sur LinkedIn, j'essaie d'être personnel et de faire une liaison entre moi et les personnes en essayant de comprendre leur situation et d'être empathique, tu vois. Donc le message c'était bon, j'espère que vous allez bien et que votre famille va bien, enfin vous, votre famille, et aussi au niveau professionnel ça va bien. Donc vraiment dans cet ordre-là, parce que c'est l'ordre qui est important d'avoir. Hein. Et je disais voilà, moi de mon côté, j'essaye de gérer comme je peux les enfants avec ceci cela. Donc toi, avoir un petit peu d'empathie, voir une association un petit peu, c'est un petit peu comme dans Influence et manipulation de Robert Cialdini, t'essaies de faire un lien et d'avoir un point commun entre les personnes. Et tu enchaînes sur « mais bon, j'essaie quand même de préparer l'après ». Ça, c'était la suite du message. Et c'est pour ça que j'anime 2 web-séminaires qui ont sur telle thématique, avec des noms qui sont importants, qui permettent en fait de donner un petit peu de teasing. Et à la fin, je disais bien entendu, si vous êtes disponible, vous pouvez bien sûr vous inscrire à tel truc. Si vous n'êtes pas disponible, je me ferai un plaisir de vous envoyer le replay. Et c'est vrai que c'est très important de faire ça quand t'envoies ce type de message, parce que grosso modo, allez, on a eu 250 inscrits, tu as eu à peu près une bonne cinquantaine, entre 50 et 75 personnes qui m'ont dit après, grâce à ce message-là, uniquement, je serai pas dispo, mais je veux le replay. Donc, super important de faire ça.
Ouais, donc ils s'inscrivent.
Voilà, et le deuxième truc, là, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire bientôt, c'est la deuxième lame, en fait, c'est comme le rasoir Gillette. Tu as la première lame où tu leur dis, tiens, je vous envoie
le WebSEM. Enfin, est-ce que vous voulez vous inscrire? La deuxième, c'est tu envoies à tout le monde, et sauf hein, bien sûr à ceux qui ont déjà reçu les slides, tu leur envoies en fait un message derrière. Tiens, voilà, je crois que vous n'avez pas pu vous connecter ou pas pu venir, je vous envoie ça. Donc voilà, ça c'est la technique habituelle. Qu'est-ce qui a changé? C'est que j'ai essayé de faire des messages qui sont beaucoup plus personnels, beaucoup plus orientés en fait sur les gens. Et ça, c'est vraiment important. Et l'autre point, c'est vrai que tout le monde s'y est mis, mais le web séminaire est devenu une méthode qui permet d'aller toucher les gens dans cette période-là.
Alors, justement, je me permets de te couper parce que c'est quand même quelque chose qu'on préconise depuis très, très, très longtemps en termes de content marketing, d'inbound marketing. C'est cette forme d'empathie, de générosité. Et là, on voit enfin, justement, ce type d'expression émerger. Tu penses qu'elle va perdurer après la crise ou qu'on va revenir à nos bonnes vieilles habitudes d'être un peu auto-centré, commercial et très impatient?
Alors, je dirais que le web séminaire, là, il y a eu beaucoup d'initiatives qui étaient vraiment solidaires avec des web séminaires à valeur ajoutée, avec des gens qui vont faire des produits numériques, des formations, etc., etc. Nous, on l'a fait aussi. On a eu aussi cette communication spéciale entre guillemets, Covid, on est solidaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a offert à certains de nos clients des services, par exemple des mises en place de numéros spéciaux, des mises en place de SMS pour prévenir les gens. Et c'est vrai que on a eu ces coms-là. Et c'est vrai que on a communiqué comme jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois qu'on a envoyé 3 emails dans une semaine pour dire d'abord à nos clients, on est toujours là, on a un plan de continuité. Deuxième chose, c'est on est là pour vous aider, vous accompagner, et voici ce qu'on peut faire pour vous, télétravail avec les conseillers, avec les centres de contact, etc., etc. Ensuite, on leur dit, comme vous êtes en difficulté, on offre des services normalement payants. Et là, en fait, on est en train de servir aussi un autre outil qui est, on vous aide gratuitement à mettre en place une enquête de morale sur les salariés parce qu'ils sont télétravail. Donc c'est une surcommunication. Jamais, tu n'envoies autant d'emails en si peu de temps. Et là, en fait, c'est des communications entre guillemets de crise et il vaut mieux plutôt surcommuniquer que sous-communiquer. Alors après, non plus, il ne faut pas exagérer, envoyer un email tous les jours, mais c'est vraiment important de surcommuniquer. Et donc là, avec ça, tu vas créer du lien, créer de la liaison. Et c'est vrai qu'on a eu des témoignages assez intéressants de nos clients spontanément qui ont publié sur les réseaux sociaux « Merci à Eloquent pour avoir mis en place mon numéro spécial, mon SVI, etc. etc. » Et c'est là, en fait, dans ces moments de crise, que tu dois être au top. Et c'est vrai qu'en même temps, il faut que si ton service soit au top. C'est-à-dire que nous, on a vraiment travaillé là-dessus pour que on fasse plus de maintenance, on fasse plus de aucun truc pour que le service soit au top, parce que tu peux pas avoir une relation forte et promettre quelque chose d'important si tu n'assures pas le service minimum. On fait pas d'évolution sur les plateformes, on travaille plutôt sur le fond, et comme ça, on va vraiment avoir une solution dans un moment dur de fiabilité.
Ok, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de générosité, beaucoup d'empathie. Comment vous préparez la sortie de crise? Alors, je sais que c'est un peu tôt pour en parler, mais est-ce que vous avez déjà ça en tête? Est-ce qu'il y a des actions que vous pensez mettre en œuvre pour faciliter cette sortie de crise? Est-ce que finalement, ce que vous mettez là aujourd'hui en œuvre, donc on voit une forme un peu de surconsommation, de surcommunication très très généreuse, c'est quelque chose que vous allez poursuivre?
En fait, ce qui se passe, tous les mois en fait, tous les deux mois, on fait un web séminaire à valeur ajoutée comme ça, mais c'est pas forcément ce qui convertit le plus. Malheureusement, je te le dirais, on est plus sur de l'éducation avec des gens qui sont des consultants ou des gens qui sont étudiants, mais on est peu sur des personnes qui sont vraiment des décideuses et qui ont un vrai projet à valeur ajoutée et qui rapporte beaucoup. On est plus dans l'éducation, on est plus dans la notoriété. Après, tu peux bien sûr produire d'autres web séminaires qui sont plus marketing et vente avec une présentation de la solution, mais on le faisait et on sait très bien que ce type de webinaire va générer de la notoriété mais pas des ventes. Pourtant, il fallait qu'on fasse quelque chose parce que comme je te dis, ce série de web séminaires, c'était pour compenser le salon e-marketing où là, en fait, t'as des gens qui se déplacent, qui viennent une journée. Donc, si tu viens une journée, c'est que t'es pas juste un petit outliner, entre guillemets, où t'es vraiment un décideur ou t'es un manager. Si tu peux partir pendant une journée, deux jours, voilà. Et si tu vas là-bas, c'est que généralement, t'as une idée derrière la tête. Tu fais un tour d'horizon, tu fais un peu de veille, etc. Donc, c'était pour compenser ça et justement pour préparer l'après-crise. Parce que toutes ces personnes-là, ils vont à un moment donné peut-être avoir un projet. Et ça permet aussi de donner des idées pour des choses qu'ils vont pouvoir faire maintenant. Et c'est ça aussi qu'on a initié, c'est des projets de maintenant. Et chose différente.
Ce sont des leads que vous acquériez maintenant, mais par contre que vous traiterez d'un point de vue commercial plus après la crise.
Eh ben, pour une fois, non. Alors, normalement, en fait, ce qui se passe pour les web séminaires, après quand même pas mal d'expérience, on se rend compte que tout ce qui est web séminaire livre blanc a de rares exceptions près, on va dire à 95%, les leads généralement sont très froids et n'ont véritablement que peu de projets. Il y a que les personnes lors du web séminaire qui ont manifesté un intérêt. Donc tu regardes les chats, tu regardes les enquêtes de satisfaction post webinar, tu regardes les avis sur la solution de webinar, et donc tu vas exploiter ça. Généralement, on se fait vraiment un focus sur les plus chauds. Là, cette fois, pour une fois, comme les commerciaux ont relativement peu de choses à se mettre sous les dents, et en fait, on va leur distribuer directement ces leads qu'on ne distribue pas normalement à des commerciaux chevronnés, et on va leur demander tout simplement de faire une prise de contact, mais qui va être plus une prise de contact soft, c'est-à-dire qu'on va dire, qu'est-ce que vous avez pensé du web séminaire, ça vous donne des idées, est-ce que vous voulez des slides, est-ce que ceci, cela. On va être plus en mode conseil, on va pas être en mode, quand est-ce qu'on se voit pour faire une démonstration.
Donc, vous n'êtes pas en mode vente, quoi.
Voilà, on va pas être en mode vente harceling, même si on peut le faire. Mais là, nous, on le voit, ce qui se dégage actuellement comme projet, ce sont souvent des projets liés au Covid et des projets, en fait, très court terme. C'est-à-dire que les gens doivent faire face à une problématique rapide et il faut être capable de le prendre. Par exemple, là, j'étais avec un client cet après-midi, là, et c'est vrai qu'il nous a dit, est-ce qu'on peut se voir cet après-midi? Qu'est-ce que vous me proposez pour faire du chatbot et du chat? Combien de temps on peut le mettre en place? Et là, on a dit, il y a deux types de projets, les projets complets, puis il y a des projets un peu plus simple, et je crois que vous, c'est quoi comme type de projet? On dit nous c'est un projet Covid, donc ça veut dire qu'il faut que ça sorte tout de suite, et donc on va adapter la méthode, quoi. Donc en fait là on va semer un petit peu des graines, mais c'est pas non plus ce qui va te générer tout de suite du projet, parce que on sait très bien on fait des rendez-vous, on fait des présentations, mais on sait pas ce que va être la sortie de crise, quoi, on va dire. Et donc par contre, il faut s'y préparer, renforcer les liens avec ses clients, c'est ça qui est le plus important. Nous, en fait, dans notre business, en plus chez Eloquence, c'est du modèle de récurrent, et donc il faut vraiment que tu te rapproches de tes clients, tu sécurises ton chiffre d'affaires pour éviter de les perdre. Après, le bonus, ça sera d'aller chercher plus de conquêtes et d'aller chercher plus de business. Mais là, encore une fois, il faut aussi s'adapter au marché. Nous, on a beaucoup communiqué lors de nos web séminaires, par exemple, sur l'intérêt d'une solution de centre de contact, d'un chatbot, etc. En mode, on est en télétravail. Donc, c'était contextuel. Et moi, j'invite les gens à revoir un petit peu leur offre et qu'est-ce qu'ils peuvent offrir, comment ils peuvent refondre leur offre et comment l'expliquer. Et nous, par exemple, tu avais un client, là, GFI Informatique, qui disait, tous nos conseillers maintenant sont à distance, blablabla, blablabla. Voilà. Mais là, encore une fois, un web séminaire, il faut vraiment faire attention. Il faut donner de la valeur, mais il faut pas non plus trop en faire. J'explique mon point de vue. Un webinaire où les gens, à la fin, te disent « Waouh, c'était vraiment génial, j'ai appris plein de trucs, merci !» Et les gens, ils partent. C'est un web séminaire, certes, où tu as donné de la valeur, où tu as vraiment montré ton expertise. Mais le problème de ça, c'est que tout simplement, en fait, tu n'as pas réussi à vendre. Et ça, c'est un souci que je vois dans beaucoup de webinaires où on apporte la valeur, c'est qu'ils n'arrivent pas, en fait, à loquer le client, à faire en sorte que le besoin, la problématique soit vraiment prégnante et vraiment importante, que tu apportes une partie de la solution et que tu lui donnes surtout envie de passer à l'action. Par exemple, nous, dans tous nos web séminaires, à la fin, tu as une slide qui s'appelle ce que vous devez faire. Donc, c'est un plan d'action qu'on décide, en fait, à 1 mois, 3 mois, 6 à 9 mois, ça dépend après selon le type de solution. Et là, en fait, tu engages le client déjà dans une démarche. Et ça, c'est important parce qu'autrement, dans ton web séminaire, tu auras dit « Oh putain, on a délivré de la valeur, c'est génial !» Et c'est vrai que pendant très longtemps, on nous l'a dit. Mais après, derrière, tu n'arrives pas à closer.
Voilà. Ouais, après, c'est complexe. Ok. Allez, alors comme tu l'as fort justement souligné, il y a quand même beaucoup d'entre nous qui avons un petit peu plus de temps durant cette période, donc on peut mettre ce temps justement à bouquiner. Ça serait quoi, là, tes 2-3 recos en termes de lecture?
Alors, je vais juste finir pour un dernier truc. C'est vrai que là aussi, c'est vrai que ça me fait penser à ça quand tu parles de livres. Il est en fait aussi quelque chose que je mets en avant et que j'essaye de pousser. C'est aussi l'aspect groupe, l'aspect soutien mutuel. Tu vois, j'avais fait un petit sondage dans mon groupe, les community managers francophones, et j'ai envoyé un petit sondage en disant, est-ce que vous êtes intéressé pour créer un groupe WhatsApp, où on va en fait se partager des super news qu'on a de chez nous, de nos clients, et on va essayer en fait s'aider à mutuellement à leur faire donner de la visibilité avec un petit commentaire, un petit like, un partage et tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, puisqu'en sortie de crise, il faudra passer obligatoirement avec d'autres personnes et pas essayer de réussir tout seul. Et donc, moi, j'ai créé ce pod-là, donc un pod WhatsApp. J'en ai également un sur LinkedIn où on s'aide en fait à, mutuellement à partager des news et des actualités sur LinkedIn. J'ai un autre pod en fait sur YouTube où là encore, on essaye de regarder les vidéos, les liker, les commenter parce que c'est des choses qui sont importantes pour l'algo. Et donc, moi, je sors ce petit groupe-là avec quelques-uns quelques partenaires hein, pour tout simplement se dire voilà, on a des suivants actus, on a des choses sympas, il faut se soutenir, il faut être ensemble, et c'est ensemble qu'on arrivera en fait à vraiment à surmonter cette vague, en fait, ce tsunami qui nous est tombé dessus, et surfer dessus et ressortir le plus facile de la vague sans prendre le bouillon, tu vois.
Ouais, donc beaucoup de solidarité.
Oui, je pense que c'est important parce que si tu es trop égoïste, certes, tu peux réussir à court terme, mais si tu veux aller loin, il faut en fait jouer sur l'effet de groupe. C'est comme le proverbe africain, hein, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc c'est vraiment important de travailler cet aspect communauté, cet aspect travail en commun. Donc le groupe WhatsApp, moi je vous engage à faire ça. Hein. Si vous avez quelques amis, pas besoin d'être 50, hein, mais si vous avez déjà une dizaine de personnes qui sont vraiment dans votre secteur d'activité, qui sont partenaires et qui peuvent vous aider, vous soutenir quand vous avez comme ça un petit peu de besoin. C'est un petit peu la solidarité 2.0, mais adaptée aux médias sociaux.
Ouais, très bien. Alors, tes recos de bouquins.
Alors, moi, j'en ai deux qui m'ont vraiment marqué et que je trouve vraiment très intéressant. Alors, le premier, en fait, c'est un bouquin sur la vente. Ça, tu vas l'aimer, celui-ci. C'est un bouquin de Chris Voss et de Tal Raz. C'est un bouquin qui s'appelle « Ne coupez pas la poire en deux ». Et en fait, c'est un manuel pour apprendre à négocier gagnant par un négociateur du FBI, un ancien négociateur du FBI. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce bouquin-là est basé sur de l'empirisme. C'est-à-dire que c'est les négociateurs du FBI qui ont développé une méthode pour réussir tout simplement à faire en sorte que les prises d'otages se passent bien et d'être gagnant. Parce que souvent, en fait, dans une négociation, moi j'en ai suivi des cours de négociation, les gens te parlent souvent de la méthode gagnant-gagnant, du BATNA et tout ça. Et c'est vrai que moi, je trouvais ça super à l'époque. Mais tu te rendais compte que dans la vie privée, dans la vie de tous les jours, ben, c'était pas forcément si simple que ça de faire un partenariat gagnant-gagnant, parce qu'il y a des gens déjà qui sont pas gagnants, qui essayent plutôt de t'avoir que de faire une relation gagnant-gagnant. Et donc, en fait, ce bouquin-là, il t'explique cette méthodologie-là et qui est vraiment intéressante. Quelques trucs que j'ai retenus de ce bouquin qui sont vraiment bien. Par exemple, en fait, il ne faut jamais, quand quelqu'un te dit « t'as raison », hein, par exemple, tu dis tiens, tu devrais faire ça, et le mec il te dit t'as raison. Et ben en fait, ça veut dire non, c'est sympa, mais t'as tort. Hein, je vais pas expliquer ton truc. Il faut au contraire dire que la personne dise c'est vrai. Et c'est pour ça en fait qu'il faut changer sa manière de penser. Et quand tu vois ça, tu dis oh putain, c'est vrai. Et c'est pas t'as raison. Et donc en fait, si tu arrives à faire dire à ton prospect en face de toi, ou même ton conjoint ou ta femme ou n'importe quoi, mais tu as raison mon chéri, et pas ou c'est vrai, c'est pas la même chose en fait, hein. Tu as raison, tu l'as déjà vu avec ta femme, tes conjoints, oui t'as raison mon chéri, c'est ça qu'il faut faire, mais en fait tu vas pas le faire, quoi. Donc le c'est vrai, il faut aller le chercher absolument. Autre truc qui sert partout, moi je l'ai utilisé dans les emailings, là on l'a utilisé par exemple aussi, tiens, en crise là, en envoi d'email, t'as souvent en fait ce prospect à qui t'as envoyé une propale, que t'as relancé par téléphone, par email, et qui te répond pas. Je pense que, est-ce que tu l'as déjà eu celui-là?
Ouais, bien sûr, oui.
Bon, alors tu sais comment le réveiller celui-là? C'est un truc très simple. Et dans le bouquin, ils ont expliqué cette méthode. Je l'ai expliqué à Fred, un autre Fred, un de nos commerciaux, et il me disait, mais non, tu racontes n'importe quoi. J'ai dit, mais si, essaye le truc qui est dans le bouquin, tu vas voir. Et il m'a dit, bon, ok, je vais essayer. Et il l'a fait. Et un prospect dont il attendait des nouvelles depuis des semaines lui a répondu dans les 10 minutes, 15 minutes. Et cette phrase magique, c'est « Est-ce que vous avez abandonné votre projet 2 ?» Et en fait, ça fait réagir les gens. Et les gens, en fait, ils disent « Ah non, j'ai pas abandonné, mais on est en phase de négociation, etc. etc. » Donc ça, un petit truc pour tes emailings, pour tes relances sur les médias sociaux ou n'importe quoi. Avez-vous abandonné tel truc ? Voilà, donc c'est un truc qui est qui est vraiment, c'est un bouquin qui est super pratico-pratique et qui t'apprend à la fois à négocier entre pro et perso. Et le dernier truc que je retiens de ce bouquin-là, qui est vraiment bien, c'est tout simplement la manière de négocier. Tu vois, par exemple, là, il y avait une personne que je connais qui dirige une entreprise et qui voulait racheter une boîte. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils discutent le prix, puis après, ça devient une discussion de prix. Et ils disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Maintenant, on pourrait lui proposer ci, on pourrait lui proposer ça. Et en fait, moi, j'étais en train de me dire, mais putain, mec, t'es en train de négocier contre toi-même, exactement comme dans le bouquin. En fait, quand tu quand t'es en face de quelqu'un qui négocie comme ça, il te dit, maintenant, mais il me faut 25% de moins. Et là, en fait, bah, tu dis, mais non, je peux 25%, je peux pas faire. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Non, faut pas dire ça. Il faut dire, mais comment je peux faire pour faire ça? Et en fait, c'est alors la personne qui est en face de toi qui va négocier contre elle-même, va dire non, bah, pour avoir ce prix-là, tu peux, je sais pas, tu peux peut-être m'offrir 3 mois de service, ou tiens, tu peux peut-être m'offrir ceci, cela. Donc en fait, c'est renvoyer à lui-même la négociation et pas le renvoyer sur toi. Donc ça, c'est un truc qui marche super bien et j'ai déjà utilisé. Mais comment faire? Voilà. Donc 3 trucs. Du bouquin, c'est, je pense, les trucs les majeurs et qui, toi, c'est, enfin, après, t'en as plein d'autres, mais qui sont vraiment intéressants. Et puis, en plus, il est en mode storytelling.
Parce que le temps passe, je suis un peu désolé de te.
Alors, je te donnerai peut-être les 2 derniers bouquins. Alors, le dernier, l'avant-dernier, c'est Ces moments qui comptent de Chip Hills et Dan Hills, qui sont, c'est un bouquin, en fait, comment créer un effet waouh. Parce que souvent, en fait, dans les parcours clients, les gens essayent de réduire les moments qui vont pas. Or, en fait, ils ont prouvé qu'il fallait plutôt créer des moments exceptionnels qui font que les gens se disent waouh, putain, cette boîte, ils sont géniaux. Et donc, en fait, ce bouquin-là est génial parce qu'en fait, il t'explique la méthode et comment faire un moment waouh, donc bien sûr à titre professionnel, mais également à titre personnel. Comment faire un moment waouh avec ta femme pour tes X années de mariage? Comment faire un moment waouh avec tes enfants? Et ça, vraiment, et avec tes collaborateurs, bien entendu. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc ça, ce bouquin-là, je te le recommande beaucoup. Et le dernier bouquin, c'est un auteur très connu en France qui s'appelle Frédéric Canevet, qui a sorti un bouquin qui s'appelle « Chatbot ». Et donc, c'est le moment de pub, d'auto-promo.
En c'est fait, Duno.
Comment ?
C'est Duno.
Oui, chez Duno, tout à fait. Ouais, et donc, en fait, ce bouquin, je l'ai écrit sur comment mettre en place un chatbot, à la fois un chatbot marketing, beaucoup de chatbot ManyChat, enfin, sur Messenger en tout cas, et comment mettre un chatbot dans un service client. Voilà, donc ça, c'est plutôt pratico-pratique pour ceux qui veulent exploiter une page Facebook, par exemple, et ou ceux qui veulent mettre en place un chatbot dans leur entreprise. Voilà.
Ok, génial. Merci beaucoup, Frédéric.
Mais de rien, c'était un plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, ce podcast collectif touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker avec de petites étoiles sur iTunes, à le partager et à le commenter. Et si vous avez une question suite à l'écoute de cet audio, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, sur Twitter ou directement sur mon site captainmarketing.io. Portez-vous bien, stay home, à bientôt.